Alors nous allons rattaquer, mais en intervertissant l'ordre prévu sur votre programme. Donc vous voyez, on improvise jusqu'au dernier moment, mais pour des questions d'horaire de train, retour. Nous allons commencer par la formation en nanosciences et en nanotechnologie avec un duo entre Sylvie Retailleau et Christelle Cerclier qui vont venir s'installer. Donc je les attends. Ah ben voilà, on m'a demandé, donc j'ai obtempéré, vous voyez.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, installez-vous. Vous avez des présentations, vous avez des clés, qu'est-ce
Tout
que vous voulez
fait.
Faire
on, a des, on peut faire direct sur la présentation si vous voulez.
Mais après c'est un problème de connexion, donc si vous n'avez pas peur que ça saute. Tiens, vous voulez vous mettre là? Vous voulez par là, je vais vous pousser. Vous avez interné, d'accord. Alors ça va être un peu plus compliqué.
Non, mais on va y arriver.
Bien, donc première recommandation, c'est de vous demander de tenir votre temps parce que l'intervenant suivant a aussi une contrainte horaire, donc. Il ne faudrait pas qu'on le mette dans la nuit, surtout qu'il a fait un effort remarquable pour venir aujourd'hui ici. Donc nous allons évoquer un aspect auquel on tenait vraiment depuis le début, qui était celui d'évoquer les formations, la formation en nanosciences et en nanotechnologie, étant donné qu'on est face à une question qui est relativement récente. Ce problème apparaît de façon récurrente lorsque émerge comme ça une discipline. Comment ça se traduit? Est-ce qu'on a des formations adaptées ou pas? Et notamment, quels sont les métiers qui peuvent apparaître derrière? Il y a des mutations profondes qui sont en gestation au niveau des postes de techniciens, par exemple, etc. Donc, je pense que vous allez aborder tous ces aspects-là. Je vous remercie d'avoir accepté d'évoquer ces aspects et je vais vous demander au passage de vous présenter puisque vous avez une origine CNRS d'après ce que j'ai vu. Non, vous êtes parce que vous avez la casquette université CNRS et vous êtes ingénieur de recherche CNRS, c'est bien ça. Donc je vous laisse vous présenter un peu plus en détail pour démarrer. Voilà.
Merci beaucoup. Donc je vais commencer par me présenter, je laisserai à Christelle ensuite puisqu'on va alterner. Donc moi je m'appelle Sylvie Retailleau, je suis professeure à l'université Paris Sud 11. Donc je suis enseignant-chercheur, enseignant dans le domaine de la physique en règle générale, plus particulièrement physique et tout ce qui est le domaine de l'électronique. Et je suis chercheur dans les domaines de la nanoélectronique à l'Institut d'électronique fondamentale à la Faculté des sciences d'Orsay. Donc voilà, ça permet de cadrer un petit peu. Donc je viens aujourd'hui plus avec ma casquette, on va dire, d'enseignante, puisque je vais vous parler de formation. À double titre, je suis aussi directrice des formations de la Faculté des sciences. Et donc c'est quelque chose, l'évolution des formations à tout niveau, secondaire et primaire, qui me tient particulièrement à cœur. Et puis j'ai participé, puisque je fais des nanos, à la création d'un master nanosciences sur l'Île-de-France Sud, récemment. Et donc on s'est posé à l'occasion de cette création quelques questions sur l'évolution des formations, et c'est un petit peu ces questions-là que j'aurais voulu vous faire partager. Alors, on a mis l'exposé en deux temps. Moi, je vais commencer par vous présenter les formations nano du supérieur, donc au niveau plus post-bac, et puis ensuite, on se posera des questions au niveau du secondaire. Comment est-ce qu'il faut, quelles sont les actions qui existent, en vous donnant un exemple, et on le fera toutes les deux avec Christelle, regarder un petit peu les nanos dans le secondaire, où on en est, et puis quels sont des exemples d'actions, d'interventions dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Donc on va balayer tous les niveaux de formation. Donc je commence par le niveau supérieur. Alors on l'a dit, je vais aller assez vite sur le début. Juste pour vous dire que je vais le prendre parce que là, c'est voilà, je serai plus à l'aise. Donc, pour rappeler, un des problèmes dans le supérieur, ou pas de problème, mais qui caractérise ce domaine, c'est qu'en gros, les nanos, ben, quand on regarde au domaine science,
Ben, ça touche aussi bien nanochimie, nanomatériaux, donc avec l'élaboration de certains matériaux ou l'élaboration de certaines solutions, etc. Tout ce qui est biologie, par exemple ici, vous avez l'utilisation de ces nanoparticules en dessous de sélénure de cadmium pour suivre l'évolution d'un neurone. Bon, c'est des illustrations, mais c'est tous les domaines qui existent dans le domaine de nano. La nanophysique, tout ce qui est nanostructure, exploiter des nanostructures, par exemple, dans l'électronique, dans l'optique ou plein d'autres domaines. Et puis, là, c'est les mémoires en électronique, tout ce qui est mémoire à jonction tunnel. Les nanotechnologies, ça, c'est les procédés de fabrication ou de caractérisation. Donc ça, on est dans la technologie, ce sont des outils et des procédés qui nous permettent de faire beaucoup d'autres domaines. Donc ça, c'était pour vous rappeler, mais vous l'avez beaucoup entendu, que les nanos, en science en tout cas, il y en a un peu dans tous les domaines scientifiques, disciplinaires, physique, biologie, chimie. C'est un spectre très large. Et du coup, en formation, c'est aussi une des caractéristiques et une des problèmes de savoir comment le traiter. Donc ça, c'était pour remettre un petit peu des mots. On va passer, c'est la même chose. Quelles conséquences de ce spectre déjà large? Donc cette nécessité, les défis, c'est d'avoir une nécessité d'un spectre large. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, de plus en plus, pour avoir une interdisciplinarité. Deuxième chose, il faut avoir de l'interdisciplinarité, mais il ne faut pas sacrifier des connaissances de base solides, au moins dans un domaine. Quand on fait des nanos, est-ce qu'il faut d'abord être physicien, être chimiste, être biologiste, et puis à quel moment on va devenir plus spécifique, formé en nano? Est-ce qu'il y en a vraiment besoin ou pas? Et puis, est-ce qu'il faut faire des nanobiophysiques? Est-ce qu'à quel moment on va faire de la biophysique, de la chimie physique? Est-ce que c'est lorsqu'on sera un bon physicien qu'on donnera une teinture? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une vraie double spécialité? Tout ça, c'est des vraies questions au niveau d'orienter les formations. Et à quel niveau de formation? On y reviendra. Ensuite, la formation de haut niveau scientifique à double compétence, théorique et technologique. Ça aussi, c'est un double point. On parle souvent de nanosciences et de nanotechnologie. Aujourd'hui, il ne faut pas les opposer, mais quelque part, on ne fait pas la plupart du temps ou des nanosciences ou des nanotechnologies. La plupart du temps, on a vraiment besoin de compétences dans les domaines des nanosciences, sans oublier les outils de fabrication, de caractérisation des nanotechnologies. Et même si en tant qu'industriel, chercheur dans notre métier, on n'utilise pas, on est amené à travailler avec des gens qui l'utilisent. Donc là aussi, au niveau de la formation, ces outils-là, il faut les faire connaître à quel moment, comment, à quelle dose. Et puis, introduire au niveau des formations, alors là, les deux premiers points, on va dire que c'est plus des problèmes scientifiques, mais bon, ce sont quand même des formations scientifiques et c'est important. Le troisième point, c'est un problème beaucoup plus d'actualité sur les nanos, mais pas que sur les nanos, sur d'autres thématiques aussi. Comment introduire et à quel moment et comment surtout dans les formations les problèmes du science et société, toxicité, éthique, risque. Aujourd'hui, on ne crée pas de formation sans introduire, enfin on devrait, sans introduire des séminaires, des cours. Et quand même, je vous rassure et je voudrais apporter certains bémols, il y a quand même certains chercheurs qui se posent certaines questions et qui le font, parce que comme dans tous les métiers, il y a tout. Débouchés, il y en a qui passent du temps aussi. Débouchés, identifiés par les étudiants comme étant clairement un domaine de recherche et de développement. Ça, c'est vrai que les domaines des nanos, que ce soit physique, chimie, etc., aujourd'hui, c'est très difficile. Les étudiants ne vont pas obligatoirement en formation nano. Ce n'est pas des formations qui attirent. On pourrait le croire, eh bien, pas du tout. On a du mal à remplir nos formations en nano aujourd'hui, énormément. Pour plein de raisons. Et une des raisons, c'est les débouchés. Clairement, pour un étudiant, les nanos, c'est pour faire de la recherche et du développement très amont. Mais ce n'est pas pour aller dans l'industrie ou travailler dans l'industrie. C'est l'image qu'ont les étudiants aujourd'hui. C'est peut-être un peu vrai aussi que c'est quand même quelque chose de très amont. Et comment l'exploiter voilà. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui vont prendre le module nano d'ouverture au niveau licence ou master, mais peu qui vont ensuite aller s'engager dans une formation nano. Donc, justement, les débouchés, les entreprises, donc touchant au nano, entre guillemets. Donc, quand je dis en France, et c'est vraiment en France, parce que bon, ce n'était pas le but, enfin, je pensais aujourd'hui, mais si on regarde au niveau de la carte mondiale et de l'Europe, ce n'est pas du tout les mêmes tendances au niveau de l'Allemagne, par exemple, qu'on prend souvent en exemple, et bien sûr les États-Unis. Mais si on reste en Europe, il y a beaucoup d'entreprises en Allemagne qui affichent j'emploie ce terme exprès, qu'ils font des nanos, soit en recherche au développement, soit qu'ils les utilisent. Alors on peut en discuter, mais en tout cas ils l'affichent. En France, il y a quand même peu d'entreprises qui, en termes de visibilité, disent qu'ils font des nanos. Je dirais que même il y en a qui en font et qui ne veulent pas le dire. Donc ça aussi, c'est un vrai débat. On pourrait peut-être regretter quand même qu'il y ait peu de R&D réellement en entreprise en se posant des bonnes questions. Parce que parfois, en faire et en faire bien, ça peut aussi poser les questions et ne pas conduire dans le mur ou à certains excès, etc. Et une volonté de non-affichage de leur utilisation, de leur développement. Donc c'est vrai que ça n'incite pas, au niveau formation, à montrer les débouchés et à voir qu'est-ce qui pourrait être fait dans beaucoup de domaines. Alors, les difficultés justement qu'il faut se poser pour monter ces formations, c'est un vaste domaine, pluridisciplinarité, caractérisé par un manque de lisibilité, donc manque de lisibilité par rapport à finalement qu'est-ce qu'on fait quand on fait des nanos et où on va travailler, quels sont les débouchés. Une image publique délicate, bon j'y reviendrai pas, hein, je crois. Des formations nécessitant des installations technologiques de pointe à coût élevé. Alors ça, c'est un des points importants aussi, qui n'est pas lié au débat, mais tout ce qui est nanotechnologie pour les formations, ça demande des outils évolués qui coûtent très très cher. Des plateformes technologiques, on appelle par exemple des salles blanches, hein, des centrales de technologie pour fabriquer les composants, et c'est vrai, des plateformes microscopie pour voir, caractériser les composants ou tous les objets à petite dimension, ce qu'on appelle les microscopes AFM, etc., force atomique, et tous ces instruments, toutes ces installations de plateformes ont des coûts énormes. Et ces coûts-là n'ont rien à voir avec des installations normalement liées aux formations, malheureusement. Entre guillemets. Et donc aujourd'hui, des formations vers les nanos, où il y a obligatoirement ce côté technologique, accès à la technologie et aux outils, eh bien, demandent d'avoir accès à ces plateformes technologiques. Alors, un exemple. Moi, je fais de l'électronique, donc je vous ai pris cet exemple de la microélectronique vers la nanoélectronique. Donc, quand on fait ça, quand on se pose des questions en tant que chercheur, malgré tout, parfois, on se pose quand même des questions à quoi ça sert. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi? Pas seulement pour faire des iPhones, mais aussi parfois pour faire des calculs qui demandent beaucoup de mémoire, des fortes rapidités de calcul, parce que bah, ça peut expliquer beaucoup de choses au niveau de la biologie, du spatial, de l'environnement, et dont on a besoin scientifiquement parlant, et pas seulement pour des applications autres. Et donc cette évolution depuis des années et des années de la microélectronique vers la nanoélectronique, premièrement, elle demande des compétences générales. Mais ça, c'est vrai dans beaucoup de domaines. C'est un exemple particulier qui illustrerait énormément de domaines. De la physique générale, de beaucoup de types de physique, des techniques d'observation des nano-objets, mais aussi du traitement du signal, c'est-à-dire tous les outils que l'on appelle « science pour l'ingénieur ». Donc on voit déjà des compétences de physique, de la science pour l'ingénieur, et puis des techniques avec des nouveaux outils. Donc ça demande quoi? Alors un exemple qui peut être un apport de solution pour les formations, pour développement de formations coûteuses en particulier, il y a un exemple d'un centre qui s'appelle la Coordination nationale de formation en micro et nanoélectronique. Et ce réseau national permet justement, premièrement, la facilité, l'accès aux formations des plateformes de pointe, technologiques de pointe. C'est-à-dire qu'au lieu que toutes les formations aient sa plateforme juste à côté, on mutualise au niveau national les plateformes. Il y en a quelques-unes et les étudiants et les enseignants se déplacent dans ces plateformes technologiques qui sont réparties quand même, qui maillent le territoire national et qui permettent un accès à toutes les formations au niveau de ce maillage. C'est de même pour les centrales technologiques ou les outils de caractérisation. Faciliter l'adaptation des étudiants au métier des entreprises. Donc ce réseau, il a une force parce qu'il est groupé, c'est de pouvoir discuter avec les entreprises et de savoir justement leurs besoins, l'évolution des formations et justement ces fameux débouchés. Est-ce qu'il faut qu'on forme 10 étudiants au nano ou est-ce qu'il faut qu'on en forme 10 000? C'est quoi les besoins et pourquoi faire? Donc c'est vrai que lorsqu'on est en réseau, c'est plus facile de parler en tout cas aux entreprises. Former les formateurs aux outils d'enseignement. On a vu que c'était des outils techniques de pointe avec des spécificités très fortes. Et donc ça, c'est la formation tout au long de la vie des enseignants et des chercheurs. Encore une fois, il y a des spécialistes, mais pas obligatoirement dans tous les établissements. Et donc le rôle de ce réseau, c'est de pouvoir rendre accès à cette formation aussi aux enseignants. contribuer à la formation continue des enseignants, des ingénieurs et des techniciens, ça c'est le lien avec les entreprises aussi, aider les entreprises à utiliser les nouvelles technologies, c'est-à-dire rendre accès à ces plateformes, et encore une fois, en se posant certaines questions, parce que si on travaille ensemble et qu'on peut discuter, ça pourrait justement permettre le dialogue et certains débats qu'on a du mal à avoir avec beaucoup les entreprises aussi, certaines. Contribuer aux réflexions sens et société sur les nanotechnologies, là aussi c'est fondamental. Au niveau, c'est difficile de le faire tout seul, chacun dans son coin, au niveau des établissements. Donc si on a un vrai réseau qui a un poids au niveau national, un poids reconnu des établissements et qui peut discuter avec les entreprises, permettre ce débat et permettre cette introduction dans les formations est beaucoup plus facile. Donc déjà, il y a une certaine visibilité liée à ce type d'exemple de coordination qui peut permettre d'introduire de nouvelles choses dans les formations. Alors juste un exemple, en triangle, je vous ai mis l'emplacement des centrales de technologie en France, en gros, vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça. Et à côté, ben, le nombre de masters étiquetés nano. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Mais c'était pour vous montrer aussi que si on regarde des masters, ou Bac plus 4, plus 5, étiquetés nanotechnologie ou nanosciences, vous n'allez pas en trouver beaucoup, beaucoup. Une quinzaine au niveau national, entre 15 et 20. Mais il y a énormément de formations en physique, en chimie, en bio, qui ne sont pas étiquetées nano dans le titre et qui pourtant, depuis des années, font des nanos par la nature même de ce qu'on y enseigne. Donc, encore une fois, une formation aux nanosciences et aux nanotechnologies, c'est difficile au niveau de la lisibilité et de les quantifier aussi parce que ce n'est pas simplement ceux qui sont affichés master, nanosciences ou nanotechnologie. Alors, l'autre point qui est important, c'est à quel niveau introduire les nanos ou quand se spécialiser dans les domaines dits de nano. En licence, au niveau du master première, deuxième année. Donc, clairement, il y a deux effets. La première chose, et on y reviendra dans l'école, c'est introduire les nanos en tant qu'ouverture. Tout le monde aujourd'hui, il n'y a pas que les nanos, je dis les nanos, mais c'est tous les domaines scientifiques, ça fait partie d'une culture société, du citoyen. Donc là, on en est à une université, j'en suis dans le supérieur, et je m'adresse aux formations scientifiques. Donc évidemment, je m'adresse pour l'instant dans cet exposé-là à des gens qui vont être scientifiques, et ça fait partie de leur culture. Et là, dans des yeux d'ouverture, il y a beaucoup de succès. C'est-à-dire que les étudiants sont en général friands de savoir de quoi ça parle. Puis ensuite, pour faire des nanosciences ou des nanotechnologies, à quel moment doit-on spécialiser plus ou moins l'étudiant ? Y en a-t-il besoin ? Alors là, il y a deux écoles. Et en général, souvent, les deux écoles sont liées à l'interdisciplinarité. Certains qui veulent introduire le bidisciplinarité, biophysique, biochimie, se disent qu'il faut l'introduire assez tôt. Et les masters, c'est-à-dire sur deux années, M1, M2, qui sont affichés en nanosciences, c'est surtout biophotonique, biophysique, bio, avec une certaine interdisciplinarité. Beaucoup s'en arrivent qu'en spécialité de M2 et ne sont qu'une spécialité au sein d'un master de physique, d'un master de chimie. C'est-à-dire que leur objectif, c'est d'abord d'afficher, de former un physicien, un chimiste, un biologiste, et ensuite, en dernière année de leur étude de master, Bac plus 5, leur donner cette connotation des nanos, avec en particulier l'introduction des outils technologiques ou de certaines spécificités ou d'une culture interdisciplinaire, mais qui va rester une première culture. Donc, et le côté interdisciplinaire, c'est un grand débat de savoir si ce n'est pas dangereux d'avoir plusieurs disciplines ou si on ne va pas faire des gens qui connaissent un peu de tout, mais pas profondément de quelque chose. Et ça, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup qui ont la réponse vraiment aujourd'hui. Quelle piste pour les formations ? Donc, besoin de recenser les besoins en matière de formation dans le domaine, identifier les débouchés industriels. On en a parlé, c'est un vrai besoin de savoir combien et comment on doit former pour l'industrie. Et donc, la nécessité de filières de type professionnel. Il y a beaucoup de masters typés recherche en nano aujourd'hui. Et il y en a des masters dits professionnels, mais pas beaucoup. Et souvent, quand on regarde, les débouchés des masters pro, c'est quand même des thèses. D'accord ? Mutualisation, création de formation. Donc, clairement, il y a besoin de mettre en commun des compétences, aussi bien par rapport au coût que par rapport aux compétences avec l'interdisciplinarité. Former des spécialistes à l'esprit large et critique, ça veut dire quoi ? Donc, d'abord, scientifiquement, éviter les cloisonnements de disciplines. De toute façon, même si on forme physicien, chimiste, en nano, on va obligatoirement, dans sa carrière, intervenir sur plusieurs disciplines. Il faut de nouvelles approches. Donc l'importance de TP, l'importance d'avoir accès aux plateformes technologiques, ça c'est fondamental dans les formations. Et puis aborder l'ensemble des problèmes liés au domaine, à ce domaine, avec la participation à ces formations, bon, de tout ce qui est sciences et sociétés, philosophes, spécialistes en toxicité. Ça aujourd'hui, dans les masters que je connais en M2 qui sont créés, c'est de plus en plus fait. Et il y a une vraie volonté, pas générale, mais il y a quand même, en particulier les CNANO en Ile-de-France ou autres, ont cette volonté d'aider les formations à pouvoir inviter dans leur formation sous forme de cours et de séminaires ces spécialistes qui parlent d'autre chose que le côté science de base des nanos. Donc c'est en évolution, c'est pas gagné, mais c'est une vraie évolution. Un des problèmes de ces formations, je l'ai déjà dit, c'est la création de plateformes technologiques. Et ça, c'est un challenge financier. Donc clairement, au niveau environnement, on a besoin de s'adosser aux laboratoires de recherche, parce que ces plateformes, elles pourront pas être uniquement formation, avec des entreprises actives dans la formation, parce que sinon, ça sera des faibles flux et très spécifiques. Et puis, différents organismes, CNANO, les pôles de compétitivité, et des partenaires dans d'autres domaines que ceux de la science, je l'ai mis entre guillemets, la science. Je parle de science dure, là. Bien sûr, la science a un terme beaucoup plus large. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie supérieure.
Merci bien pour avoir présenté dans un temps record ce que vous vouliez dire.
On avait dit qu'il fallait tenir le temps.
Vous enchaînez immédiatement ?
Oui, je fais les expériences toulousaines.
Oui, ou si tu as nano école d'abord, à l'école, je pense. Ou si nano école, oui, c'est ça, vas-y.
Attends, je prends ça.
Pendant l'installation, je vous demande de réfléchir pour le débat.
Les questions.
Pour les questions. Au volet école d'ingénieurs, plus spécifiquement.
Alors, juste pour vous répondre déjà, voilà. Quand je parle niveau master, c'est pour ça que je dis souvent niveau master, ça touche école d'accord. D'ingénieurs. Quand on travaille avec les écoles d'ingénieurs, moi je travaille beaucoup avec eux, même eux parlent niveau master.
Okay,
et d'accord. Aujourd'hui, les masters qu'on crée sont souvent cohabilités avec les écoles d'ingénieurs. Et donc, c'est des formations qui n'existent peu en école d'ingénieurs et qui vont exister sous la forme de master aujourd'hui.
Ok, très bien.
Tu mets sous la clé, puis moi je présente à l'oral le projet nano-école pendant que tu mets sur la clé.
Ça y est, sur la clé.
Alors juste le temps qu'on mette, parce que ça ne marche pas visiblement, je vais remettre sur mon PC. Alors on va vous présenter là deux expériences, donc celle de Toulouse et celle de Île-de-France Sud, d'Orsay. On va passer à nano-école. Donc nano-école au sens large, c'est-à-dire primaire, collège et lycée. Donc ce programme, c'est en fait un programme national, mais qui a été mené par trois pôles. Et les trois pôles, et ça on pourra aussi en discuter, ces trois pôles, ça ont été les trois pôles qui politiquement ont été, via Nano Innov, ciblés trois pôles nano. Toulouse, Grenoble, et puis Île-de-France Sud, on va dire, en gros, hein, puisque c'est pas toute l'Île-de-France. Donc ces trois pôles ont eu un financement aussi. Ils ont demandé, ce qui n'est pas pareil. C'est pour ça que j'insiste. Ils ont demandé un financement pour deux actions qui ont été... Alors, une, ils ne l'ont pas vraiment demandé, ça avait été déjà prévu, mais l'autre, nanosociété et nano-école. Donc, pour nanosociété, ça avait été déjà prévu, mais sur nano-école, il y a vraiment eu un forcing pour aller beaucoup plus loin. Et ce projet, donc, c'est le projet nano... Ah bon, je ne savais pas, parce que... Voilà, mais ça avait été proposé, le thématique, mais ça a été redéfini aussi. Et voilà. Voilà, c'est ce que Marjorie m'avait dit. Et sur nano-école, fortement aussi. Donc, l'idée, c'est ce projet nano-école, ces trois pôles, c'est de faire des expériences de montée pour aller vers école au sens large. Donc, c'est les cibles, c'est troisième et première terminale au niveau collège et lycée. Et pour aller, premièrement, soit les chercheurs dans les lycées présenter les nanos, et on va vous montrer comment, ou faire venir aussi dans les laboratoires ou autres structures les élèves des lycées et des collèges. Donc l'idée, c'est pour ça que je dis ça a été fortement redéfini, c'est pas du tout amener les gens et les élèves à faire des sciences ou des nanos. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les sciences, c'est un problème de tout le monde, c'est un problème de société. Lorsque l'on vote, quand il y a des décisions à prendre, eh bien, elles touchent aussi les sciences. Et l'idée, c'est surtout toucher les gens qui ne seront pas scientifiques par la suite et leur donner la possibilité de leur montrer que même si ça ne les titille pas, même si ça ne les passionne pas au niveau d'en faire leur métier ou quoi, c'est fait partie d'une culture qu'il faut aujourd'hui avoir. Ça fait partie de notre rôle de citoyen, de pouvoir avoir une idée et de débattre sur ça. Et c'est là que j'ai dit que ça a été beaucoup redéfini, parce que l'objectif de ce que l'on fait dans les trois centres, c'est vraiment cette orientation-là. Et donc, c'est accompagné d'expériences, de côté très science, dur, et d'un côté de débat, puisqu'on est accompagné de philosophes, de gens qui font des sciences de l'éducation, de l'éthique, qui viennent avec nous, et qui, au bout d'une ou deux séances, où l'on a discuté sur des nanos, sur des sujets très durs, hein, quand je dis dur, c'est scientifique, et bien ensuite leur donne des documents assez larges à la demande, et organise à suite de ces séances un débat avec les élèves des lycées et des collèges, un débat, je dirais, préparé, en leur donnant avant des documents à lire, où eux, ils peuvent chercher tout ce qu'ils veulent et ramener. On cible, parce que sinon, ça peut aller vite. Et puis, on en fait un débat, mais un débat, nous, on ne sait pas le faire. Enfin, quand je dis nous, les chercheurs, en général, on est très mauvais à ça. On ne sait pas faire. Donc, on s'entoure de gens qui ont cette culture et qui savent mener, donc de philosophes, de sociologues, de gens qui travaillent sur l'éthique. Et c'est vraiment une équipe. Et quand on va dans le lycée, on ne demande pas à travailler uniquement avec le professeur de physique ou de maths. On veut vraiment faire participer l'ensemble du cours d'enseignants, parce que le plus de ces thématiques-là, c'est justement leur interdisciplinarité. Donc on va faire les manips avec le prof de chimie, de physique, etc. Mais en général, il y a participation du prof de français, d'histoire ou de philosophie pour la terminale, qui va venir avec nous, suivre ce que l'on fait, et en particulier participer aux dernières séances et aux débats. Donc c'est une vraie démarche globale, et encore une fois, qui n'est pas axée sur « venez faire des nanos » ou « venez faire des sciences après », ce n'est pas du tout l'objectif. Et justement, la présence de ces gens-là, de ces philosophes, c'est de nous dire après si notre discours n'a pas été dévié, parce qu'on est quand même chercheurs dans le domaine, et même si, on aime ça, et donc le discours que l'on a, et donc il y a aussi un retour à notre égard de leur part, pour savoir si l'objectif que l'on s'est fixé au départ n'a pas été dévié et vraiment resté sur les rails. Alors Christelle va vous présenter l'expérience faite à Toulouse.
Voilà, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Christelle Cerclier. Donc moi je travaille donc en nanotechnologie. J'ai fait une thèse en nanoélectronique et ensuite je me suis orientée vers les domaines des nanotechnologies pour des applications à la biologie et à la santé. Et je travaille donc dans le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes à Toulouse avec Christophe Vieux, que je remplace et qui devait venir aujourd'hui vous parler. Voilà, donc là, je vais vous présenter, moi, l'expérience toulousaine. Donc, je travaille, en fait, sur cette expérience depuis 2006, maintenant. Donc, on est une équipe de chercheurs, professeurs et puis aussi de post-docs scientifiques à travailler dessus. Mais, comme l'a précisé aussi Sylvie, nous travaillons avec deux maîtres de conférences qui travaillent en sciences de l'éducation. Donc ça nous permet d'avoir comme ça une vue plus sur la didactique et sur l'enseignement que nous faisons. Donc en fait, pourquoi avoir choisi les nanotechnologies? Ben, tout d'abord parce que c'est un sujet qui était scientifique, qui était de notre domaine. Qu'est-ce qu'on voulait aussi? C'est pouvoir attirer des personnes dans le domaine scientifique, parce qu'on a vu qu'il y avait effectivement au départ de notre réflexion une désaffection des carrières scientifiques. Donc c'était pour nous aussi une manière de remotiver les gens vers les sciences, et cela de manière un peu originale en allant dans les collèges ou dans les lycées. C'était un sujet qui était d'actualité et controversé, avec tout ce que l'on entend dans les médias, et qui permettait comme ça de faire comprendre et de donner les connaissances aux élèves par rapport à ce sujet-là. Et donc, comme l'a dit Sylvie aussi, c'était un sujet interdisciplinaire, à la fois avec des maths, de la physique, de la chimie, mais aussi de la bio, de l'histoire, philo et anglais. Je vais vous montrer comment on a fait intervenir tous ces enseignants dans nos expérimentations. Donc, pour quels effets? Donc, présenter les sciences de manière un peu différente, de manière aussi un peu plus ludique. Je pense en particulier avec notre expérimentation en collège. Former le citoyen de demain, donc à travers les débats et toutes les discussions autour de l'éthique, essayer de former les étudiants au débat, aussi à l'argumentaire, qu'ils aient les moyens de pouvoir argumenter quand ils ont une idée. et aussi montrer les métiers de la science, parce qu'il n'y a pas uniquement que des chercheurs, il y a aussi des ingénieurs, des techniciens qui travaillent aussi dans le domaine de la science. Bon, et ce qui avait été noté en bleu, c'était au tout départ, vraiment en 2005-2006, quand on a lancé le projet, c'était vraiment d'attirer les jeunes vers les carrières scientifiques. Mais on s'est vu que, on a vu au fur et à mesure de nos expérimentations que ce n'était pas ça, en fait, vraiment ce qu'on voulait toucher, c'était plutôt amener les gens vers un discours et vers la citoyenneté, quoi. Voilà, donc les cibles que nous avons touchées sur Toulouse, ça a été tout d'abord, en 2006, on a commencé avec les terminales. On a fait 3 ans d'expérimentation avec les terminales. Et après, on a rencontré quelques problèmes par rapport au fait qu'ils avaient le bac en fin d'année. Et donc, c'était quand même très difficile, ne serait-ce que déjà dans l'emploi du temps, c'était assez compliqué. On a ensuite décidé de passer en première l'année dernière, donc là je vous montrerai. Et cette année, on en est aux secondes, dans le cadre des MPS, donc c'est méthodes et pratiques scientifiques. Il y a ce module qui s'est inséré en fait cette année en seconde. Et donc on en a profité pour pouvoir monter un projet donc, avec les enseignants donc, de ce lycée pour parler de nanotechnologie autour en fait, de problématiques autour des neurosciences. Et aussi depuis l'année dernière, on travaille en collège, donc bien évidemment à un autre niveau, mais on essaye aussi de toucher ces jeunes élèves de 3e. Les enseignants qui se sont engagés avec nous, bon, ben, ça a été tout d'abord, ce qui était très important, c'est que c'était une équipe pédagogique qui était très motivée. Ils sont venus vers nous la plupart du temps. Les profs de terminale, ils sont arrivés avec donc, un prof de physique, de chimie, de maths, de bio, d'anglais, de philosophie donc pour les terminales. Et après, les enseignants du collège, en fait, je les ai rencontrés au cours d'une fête de la science à Toulouse, où je présentais une vidéo, je vais vous montrer après. Et en fait, ils ont été très motivés pour pouvoir monter quelque chose avec nous. Et c'est grâce à leur motivation effectivement de l'équipe pédagogique, puisque vu que c'est quand même très interdisciplinaire, il faut vraiment que l'équipe pédagogique entière, sur toutes les disciplines, soit très motivée. Donc au départ, bien évidemment, à l'instant T égale zéro, il n'y avait pas d'enseignants formés aux nanotechnologies. Donc en fait, on a voulu, nous, chercheurs, ou jeunes chercheurs, s'impliquer en fait et se déplacer dans le lycée. Donc ça a été notre choix initial, donc avec notre expérimentation en terminale. Donc en fait, nous étions 4 chercheurs, ouais, chercheurs, jeunes chercheurs ou post-doc, à aller donner 20 heures de cours, à donner 20 heures de cours en fait dans le lycée, autour en fait d'un sujet qui était, donc je vais vous dire rapidement, c'était de réaliser un dispositif de détection sans marquage pour faire des tests d'immunologie. Et c'était un sujet à part entière qui était la thèse de 2 jeunes dans le laboratoire. Donc on a essayé, en regardant les programmes de terminale, de voir comment, effectivement, sans modifier les programmes, on pouvait arriver à leur faire passer les mêmes notions qu'ils devaient apprendre, mais en prenant comme exemple ce sujet, qui était un sujet, on va dire, de pointe, et qui était vraiment au cœur de la recherche dans le laboratoire où nous étions. Donc on a réalisé donc, ces cours-là. On a, étant donné que c'était tout nouveau, on a eu un peu la pression des journalistes avec TF1 qui est venu. On est passé aux 20h. Donc, pour le premier cours avec les étudiants, avoir les caméras au fond, c'était un peu. Voilà, ça avait été un peu difficile. Mais bon, les jeunes ont été très, très motivés par cela. Ils ont été très impliqués. C'était un peu nouveau aussi pour eux et pour l'équipe enseignante. Donc, ça a été la première année. La deuxième année, on a réitéré la chose, mais cette fois-ci avec en décidant vraiment de faire un débat. Parce que la première année, on avait fait un débat qui avait été juste des chercheurs qui étaient venus exposer, juste comme ça en conférence. Et ça avait été assez décevant dans le sens où les étudiants étaient acteurs, non, au contraire, étaient passifs et n'étaient pas du tout acteurs. Ensuite, dans les autres années, on a fait en sorte de monter avec eux des dossiers qui lisent sur le pour, les contre des nanos, autour de l'éthique, autour de tout ce qui a trait aux nanos qui apparaît dans les journaux. aussi avoir des conversations avec des chercheurs et avec des spécialistes du domaine pour après avoir un débat, bien entendu, qui était encadré par les profs de philo ou par les personnes de sciences de l'éducation qui étaient là. Voilà. Donc, pour toutes ces expérimentations, ce qui nous paraissait aussi très, très important, c'est de pouvoir amener ces jeunes dans le laboratoire. Et donc, ils sont venus passer quelques temps dans le laboratoire, du moins quelques temps, une journée dans le laboratoire. Ils ont pu rencontrer donc, les chercheurs, les jeunes avec qui ils ont pu discuter par rapport au cursus aussi des différentes personnes, parce que c'est vrai que c'est assez obscur pour certains. Et donc, ils ont pu, comme ça, pouvoir aussi voir des appareils de pointe. Comme disait Sylvie, rentrer dans les salles blanches, voir les différents équipements, que ce soit des microscopes à force atomique, des microscopes électroniques à balayage, des appareils qu'ils ne sont pas quand même habitués à voir dans leurs établissements. Et ensuite, donc, il y a eu, après cette visite, cette séance de TP, on va dire, ils sont venus, on s'est redéplacés et on a eu un débat autour d'une question socialement vive. Question qui, au départ, on avait posé la question nous-mêmes, c'était la deuxième année. Et la dernière année, donc la troisième année, c'est eux qui ont essayé de trouver une question. Bien évidemment, on ne les a pas guidés. Et bien évidemment, il y avait des questions un peu saugrenues. Et on essayait quand même d'avoir des questions qui permettaient d'avoir des discussions, en particulier sur des questions autour de l'augmentation de l'homme. Ça a été surtout ce style de questions-là. Et ils ont eu une petite évaluation écrite. Bon, c'était bien sûr pas compté dans le cursus, mais c'était pour un peu les inciter, pas à suivre, mais les inciter à s'investir vraiment dans l'effort que nous avions tous fait, quoi. Voilà, donc là, bon, je vais passer rapidement. Ça, c'était par rapport au savoir qui était enseigné. Bien évidemment, là, je dis en physique, en maths, en chimie, en SVT, mais au final, on voulait faire en sorte de décloisonner un peu toutes ces disciplines. Effectivement, les maths, on en avait besoin avec ces sinus du suru, avec le sinus cardinal, pour pouvoir comprendre la diffraction, donc pour pouvoir comprendre la physique. Ensuite, on avait besoin de la chimie pour pouvoir fabriquer nos dispositifs pour venir fixer dessus nos molécules biologiques. Donc effectivement, tout ça, c'était assez cloisonné dans le sens où on disait, bon voilà, on va faire des maths, mais ces maths vont être utiles pour une question sur de la physique. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'était par rapport en fait à ce qu'on voulait faire passer. C'était vraiment un sujet d'actualité. D'ailleurs, les étudiants donc, de notre troisième année sont venus assister à la thèse donc, de Jean-Christophe qui exposait donc, pendant 45 minutes tous ses travaux sur la problématique sur laquelle ils avaient réfléchi, sur laquelle ils avaient eu un peu de formation. Ça, je vais passer. Voilà. Donc ensuite, bon, comme je vous ai dit, on a vu qu'en terminale, on avait un peu des problèmes par rapport au calendrier. Donc là, on est passé au premier S. Et là, ça a été tout à fait différent. On a décidé de les immerger pendant une semaine complète dans le laboratoire. Donc pendant une semaine, on a monopolisé toute une classe et on a monopolisé quatre chercheurs. La classe était divisée en quatre. Et l'objectif, c'était d'essayer de leur faire découvrir et de mettre en pratique une démarche expérimentale sur les nanotechnologies, toujours avec les mêmes objectifs, étant donné que c'est un sujet donc scientifique, un sujet controversé. Là aussi, nous suivaient les personnes de sciences de l'éducation, parce que vous allez voir par la suite, un débat a été aussi mené. Voir les différentes applications que pouvaient avoir les nanotechnologies, pourquoi on pouvait faire cela. Et là encore, réfléchir un peu, pouvoir argumenter autour des nanotechnologies. Donc voilà ce qu'on leur a dit. Ils ne savaient rien du tout. Ils sont arrivés le premier jour et on leur a dit, voilà, vous allez voir une image. Et votre objectif, c'est de la comprendre et d'essayer en fin de semaine de nous la reproduire. Donc ils avaient ça. Cette image-là, avec ce texte, réseau ordonné de molécules d'ADN individuelles, et c'est tout. Donc ils ont dû, après, avec cela, essayer de comprendre déjà pourquoi l'ADN était vert, pourquoi il était aligné, pourquoi il était étiré, pourquoi il était positionné à des endroits très précis en réseau, Et en gros, à quoi ça allait nous servir de faire ça, à part faire une jolie image en fluorescence, quoi. Voilà. Donc, on a fait des équipes. Et puis, au fur et à mesure de la semaine, eh ben, leur objectif, c'était voilà, d'observer, de réfléchir, d'expérimenter, et puis de faire les conclusions, de dire « Ah non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ?» Et de repartir sur l'observation, l'analyse, la réflexion, effectivement, la démarche expérimentale que tout chercheur ou tout ingénieur et tout thésard a au cours de sa thèse. Donc on leur a dit, mais voilà, il faut mettre en place un protocole expérimental. Et ensuite, on les a mis en salle blanche, bien sûr, avec toutes les sécurités. Justement, on leur a fait tout un débriefing autour de la sécurité des nanotechnologies, au fur et à mesure, pour leur expliquer cela. Et alors on dit, voilà, il faut que vous pensiez à une recette de cuisine pour, à la fin de la semaine, retrouver l'image qu'on vous a montrée. Voilà. Et donc, voilà le planning qu'on avait. Donc, la première journée, ils ont vu ça. Bon, donc, forcément, au début, c'était un peu difficile pour eux. Ils avaient Internet à disposition, quand même. Et après, au cours de la semaine, eh ben, on leur a fait des cours divers et variés sur les nanos. Donc, un cours sur la chimie avec la capillarité. Après, un cours sur la nanostructuration, justement, pour voir quelles sont les techniques utilisées pour faire de la micro ou nanofabrication. Et après, avec ça, eux, ils ont pu mettre en place toute une réflexion. Évidemment, on les dirigeait un peu en leur donnant des indices pour qu'ils puissent arriver au résultat final. En une semaine, ils ne peuvent pas faire ce que la jeune fille, donc pendant sa thèse, a fait en 3 ans. Donc, il fallait forcément qu'on leur donne des indications. Ensuite, au cours de cette semaine-là, on a eu aussi donc, des moments de manip. Donc, ils ont d'abord été en salle blanche, ils ont fait des manips, ils ont observé, puis ils sont revenus en temps de réflexion pour dire, ben voilà, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, on va faire différemment, on va changer la concentration parce qu'il n'y en avait pas assez, ou je ne sais pas moi, toutes les réflexions qu'ils ont eues autour de ça. On avait aussi des moments pour le débat. Donc, le mercredi, on leur a donné tout un dossier sur les nanos qu'ils ont pu analyser. Ensuite, le vendredi, ils ont préparer un peu le débat en groupe et jusqu'à la présentation du débat qui a eu lieu donc le vendredi en fin de matinée. Et puis ce qui était important, c'était qu'ils nous fassent une présentation PowerPoint où ils nous expliquaient tout ce qu'ils avaient fait pour pouvoir arriver à l'image finale. Et donc effectivement, tous les groupes nous ont bien proposé quelque chose. Il y a un groupe qui a réussi à refaire parfaitement l'expérimentation. Ils sont arrivés à avoir exactement la même image que l'image donc de la jeune qui était en thèse. Un groupe a réussi à faire un échantillon à peu près similaire. Les brins d'ADN n'étaient pas très, très bien organisés. Et après, il y a deux groupes qui n'ont pas réussi. Mais par contre, ils ont réussi justement dans leur présentation à dire pourquoi ils n'avaient pas réussi. Et ils nous ont expliqué ce qui n'avait pas été le... Bon, après, il manquait du temps. Effectivement, on était 30 en salle blanche. C'était pas une salle qui était faite pour. Donc c'est vrai que c'était pas trop adapté. Et justement, par rapport à ce que disait Sylvie, avoir des centres comme les centres du CNFM, qui sont des centres adaptés à la formation et qui nous permettraient de refaire l'expérimentation. Et d'ailleurs, cette année, on va refaire l'expérimentation donc à l'AIME, qui est l'atelier interuniversitaire de microélectronique, qui se situe donc à Toulouse. On va refaire l'expérimentation dans un lieu qui est vraiment adapté à l'enseignement. Voilà, donc après, pour conclure avec les différentes expérimentations qu'on a sur Toulouse, donc après, on est allé donc en collège. Donc le collège de Grisolles. Donc Grisolles, c'est plus le lycée du centre-ville toulousain. C'est un petit collège de campagne. Donc là, en fait, on a travaillé donc avec des troisièmes. Et donc là, ça a été quand même assez difficile parce que, bon, est-ce que les étudiants ont les bases suffisantes pour pouvoir entendre parler de nanotechnologie? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter. Et en fait, on a tourné en fait, toute notre expérimentation autour des notions de dimension, des notions d'échelle, leur montrer que sur un papier millimétré, on peut mettre un millimètre, mais qu'après, si on veut mettre le micron ou le nanomètre, on ne peut plus rien mettre. Donc, on passait à des échelles logarithmiques. Bien évidemment, on ne leur a pas dit échelle logarithmique, mais leur montrer qu'il existait une échelle qui nous permettait de pouvoir voir à la fois des mètres, des microns et des nanos. Et donc, essayer de trouver tout un système autour de ça. Donc, on a fait donc 3 cours juste après Noël, en 2 classes. Une classe où il y avait un chercheur avec, et une classe où il y avait uniquement les enseignants. Donc tout a été filmé, donc toujours par l'équipe donc de sciences de l'éducation, qui a analysé tous les films et toutes les interventions de chacun pour pouvoir ensuite en retirer toutes les informations nécessaires à leur recherche. Et eux aussi sont venus au laboratoire donc faire une visite. Donc eux, c'était plus vraiment dans la visite de la salle blanche, leur montrer les équipements. Ils n'ont pas trop manipulé parce qu'on n'avait pas vraiment le temps ni l'organisation pour pouvoir manipuler. Mais cette année, on va essayer de changer parce qu'on refait ça avec deux collèges cette année. Et on va essayer de les impliquer un peu plus dans les manips à leur portée, bien évidemment. Donc en fait, eux, qu'est-ce qu'on leur a dit? Pareil, ils ne savaient rien autour du projet qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'on leur a dit? C'est d'arriver avec l'objet le plus petit possible qu'ils pouvaient trouver. Et donc là, on est arrivé avec des billes, un caillou, et donc leur faire comprendre que ben, ça, c'était petit, mais qu'il y avait des choses beaucoup plus petites. Après, essayer de travailler sur le naturel, l'artificiel, essayer de comprendre ce qu'était ça. Après, notre rencontre avec ces enseignants a été autour d'une vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo qui dure 15 minutes, qui a été réalisée au cours d'un projet européen durant le 6e PCRD. Donc c'est les projets de programmes communs de recherche, donc c'est des programmes européens. Et donc on avait eu un financement pour pouvoir réaliser une vidéo pour les jeunes, donc ça a été ciblé sur les 8-14 ans, pour pouvoir leur montrer ce qu'étaient les nanotechnologies, de manière très ludique, hein, c'est un dessin animé, et de pouvoir leur montrer comme ça quelles en étaient certaines applications, et aussi leur faire découvrir donc voilà, les images un peu de nos acteurs dans la vidéo, et de leur montrer un peu ce qu'étaient les nanos, et donc la petite mascotte là, que vous voyez à droite, qui dès qu'il y avait une intervention scientifique à faire, elle s'appelle Nano, et elle intervenait pour pouvoir expliquer de manière très simple la micro-nanostructuration, les atomes, expliquer tout cela. Donc on s'est basé sur cette vidéo pour pouvoir justement construire tout ce cours avec ces troisièmes. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qui était important, c'était les échelles. Donc on leur a montré des images diverses et variées, comme vous pouvez en voir là certaines. Avec un point d'interrogation, il fallait qu'ils arrivent, grâce à la barre des dimensions et à ce qu'il fallait mesurer, par un produit en croix simple, du moins simple pour nous, mais pour eux, c'est vraiment pas du tout simple, essayer à retrouver les dimensions. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc là, on a des neurones, essayer d'arriver à estimer cette taille. Et ensuite, ces images, on avait une grande frise de 4 mètres, et ils devaient repositionner ces images sur une frise, où il y avait le mètre, le millimètre, le micron, le nano. Et pour nous, c'est hyper simple, mais pour eux, c'est très compliqué d'arriver à imaginer des choses qu'ils ne peuvent pas voir. C'est ça, en fait, qui est compliqué. Dès qu'on arrive à la limite du visible, eh ben, ça devient très compliqué pour eux de se l'imaginer. Et alors encore plus quand on arrive sur des protéines membranaires mises en forme de cannelés, parce qu'on nous dit c'est des cannelés. Là, on vous dit, regardez l'échelle, et là, vous voyez 15 nanomètres, donc ce n'est pas un cannelé. Voilà, des nanocannelés, mais... Voilà, et donc essayer de faire tout cela. Après, forcément, en parlant de visualisation, eux, ils connaissent quoi? Le microscope optique. Très bien, le microscope optique, on voit des cheveux, là, l'image de gauche. Mais après, ce cheveu, il peut être vu aussi en microscope électronique, donc leur expliquer un peu les limites de l'observation, pourquoi, bien évidemment, on ne rentre pas dans les détails non plus de lambda sur 2, de toutes les limites de diffraction et compagnie. Et après, on leur explique aussi le microscope à force atomique, qui est vraiment la résolution ultime pour pouvoir faire de l'observation, et donc ils voient les différentes écailles qui sont sur les cheveux. Donc ça leur permet comme ça, après, quand ils viennent au labo, aussi de se rendre compte des appareils, parce qu'on leur montre l'appareil, et qu'effectivement, plus on va avoir des petites dimensions, plus l'appareil, au final, il est gros, parce qu'il y a besoin d'avoir une grosse électronique pour pouvoir avoir tout ça. Et ça, ils avaient du mal à se l'imaginer, parce qu'eux, ils voyaient leur petit microscope de paillasse, et au moins, ils arrivent à mettre des mots sur... à mettre des images sur des mots, quoi. Et donc, après, voilà, on leur montre aussi des images comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est, ça? On leur dit, c'est un mélange de naturel et puis d'artificiel. À gauche, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait une bactérie, donc le petit truc noir, qui est venue se greffer sur une zone en W que nous-mêmes, par micro-contact printing, une technique de fabrication, on est venu déposer. Donc c'est une molécule qui va venir attirer préférentiellement, on va dire, la bactérie. Et à côté, qu'est-ce qu'on a ? On a un macrophage, donc le truc vert. C'est un macrophage qui est venu préférentiellement se déposer sur un réseau d'actines. C'est une protéine, une protéine membranaire. Et on voit que autour de ces plots rouges, il y a des plots un peu plus verts. Et en fait, c'est des podosomes qui permettent à la cellule de venir s'ancrer et de se déplacer. Donc ça, c'est vraiment un mélange de fabrication et de naturel, parce que là, la cellule est vivante. Et donc après, bien sûr, parce que c'était la prof de techno qui était très très impliquée là-dedans. Donc pour recouper un peu avec ça, on a parlé des moteurs. Donc le moteur des avions, effectivement, ils le connaissent. Les moteurs des voitures, tout va bien. Et puis là, on leur montre qu'il existe un plus petit moteur, le plus petit moteur le plus efficace au monde, qui est le moteur de la bactérie. Le moteur qui fait tourner le flagelle de la bactérie pour qu'elle puisse avancer. Et vu que nous, dans l'équipe de recherche, on a un projet dessus pour essayer de reconstituer et comprendre l'assemblage des protéines du moteur pour pouvoir le reconstituer, effectivement, on leur montre ça et après, on va leur expliquer comment nous, on travaille sur ce sujet-là, justement à l'interface avec des chimistes pour tout ce qui est fonctionnalisation de surface, mais à la fois avec les biologistes pour tout ce qui était protéines et les nanotechnologues qui sont, on va dire, très impliqués dans la structuration de la matière. Bon, voilà. Et donc ensuite, là aussi, il y a une étape avec le prof d'histoire, cette fois-ci, au niveau du débat. Donc ils sont habitués à faire des débats sur le nucléaire. Donc là, l'année dernière, c'était sur le nucléaire civil. Ils ont été visiter Golfech, qui est une centrale nucléaire proche de chez nous. Et ben, ils ont fait exactement la même chose avec les nanotechnologies et ils ont pu débattre autour des nanotechnologies, bien évidemment pas à la hauteur d'une classe de terminale, mais quand même ils ont réussi à avancer de l'argumentation et à s'impliquer vraiment intellectuellement dans une réflexion poussée autour des nanotechnologies. Alors une remarque qu'on a eue, c'est que par rapport au public de première et de terminale, c'est quand même c'est un public qui est beaucoup plus facile, très enthousiaste par rapport à l'expérimentation. Les enseignants aussi ont été beaucoup plus impliqués que ne l'étaient les enseignants de terminale, qui se sont laissés plus porter. Et voilà, la posture, comme était indiqué, la posture de l'enseignant paraît vraiment plus naturelle et ils n'ont vraiment pas eu... par rapport à la classe où ils n'avaient pas de chercheurs, où ils étaient eux seuls impliqués, ils n'ont vraiment pas eu de mal, effectivement, avec leurs mots pour expliquer, mais ils ont très bien fait passer le message. Voilà, donc là, en fait, ce qui est très important dans toutes ces expérimentations, un retour général qu'on peut avoir, c'est d'essayer de favoriser, en fait, le contact entre les chercheurs, les enseignants, effectivement, mais aussi entre les enseignants et leurs élèves, mais aussi entre les chercheurs et les élèves, essayer de faire un triangle comme ça où les gens puissent quand même communiquer. Une petite anecdote quand même qui a été très très intéressante, c'est quand on a fait notre expérimentation en première, à la fin on s'est tous présentés. Donc nous les chercheurs on s'est présentés en disant ce qu'on avait fait comme parcours, tout ça. Et les enseignants on leur a dit « présentez-vous ». Et les étudiants étaient surpris de comprendre qu'en fait on avait tous le même parcours, à part qu'à un moment donné les enseignants étaient partis vers l'enseignement, que nous, on était partis plus vers la recherche, mais qu'au final, leurs enseignants étaient aussi des scientifiques. Et ça, ils étaient très surpris de ça. Ils pensaient qu'il y avait vraiment un plus grand fossé entre les chercheurs et les enseignants. Et ça, ça a été vraiment très positif pour nous, de leur faire comprendre ça, pour qu'ils puissent aussi dire être chercheur, c'est pas non plus la fin du monde et on va jamais y arriver, quoi. Ou être technicien dans ce domaine-là, c'est tout à fait réalisable. Donc maintenant, je vais le faire à l'oral comme ça. La question est de pouvoir généraliser cela. Parce que là, effectivement, ça a été sur une classe. On a travaillé pendant 5 ans. On était 4. C'est énormément d'investissement. Et tous les ans, on a des lycées, des collèges qui nous appellent pour pouvoir le faire, mais on peut pas le faire. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut généraliser cela ? Donc l'action dans nos écoles... va permettre d'avoir une réflexion nationale, parce que donc après vous allez voir ce qui se fait sur d'accord, on va voir. Donc il y a des choses similaires qui se font sur Orsay, sur Grenoble et sur Lille. Essayez de voir comment est-ce qu'on peut mettre tout ça ensemble pour essayer d'en sortir quelque chose à l'échelle nationale. Donc tant que j'y suis, je vais faire. Donc après, donc justement, grâce à ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a voulu essayer de voir avec l'éducation nationale comment on pouvait réaliser quelque chose. Et donc, l'éducation nationale, à travers Christophe Vieux, qui avait présenté dans le cadre de Nano École tous les projets qui étaient réalisés, ils nous ont contactés pour, dans le cadre de Sciences à l'école. Donc, Sciences à l'école. Sciences à l'école, en fait. Ça y est. Sciences à l'école, c'est un dispositif ministériel qui a pour but, en fait, de donner une image de l'enseignement des sciences. Et donc, ils ont plusieurs actions. D'organiser des olympiades, des concours nationaux, d'essayer de financer des productions de CD, de DVD, et aussi des plans d'équipement. Donc en particulier, ils ont donc à la fois pour l'astronomie, la cosmologie, la sismographie et la météo, mais maintenant ils veulent mettre ça pour les nanos, c'est-à-dire essayer de mettre à disposition un équipement qui pourra être emprunté par les collèges ou par les lycées. Un équipement qui sera avec un kit pédagogique, avec des cours, et qui pourront être empruntés par les collèges et les lycées, et qui pourront comme ça pouvoir utiliser tout ce kit pour pouvoir enseigner ou ne serait-ce que donner une ouverture sur les nanotechnologies. Donc là, c'est tout récent. La première réunion a eu lieu le 5 novembre donc, à Paris avec l'inspecteur général, avec différents hyper en sciences physiques et chimie en SVT de certaines académies en charge de ce science à l'école, et aussi avec les responsables donc, de nanoformation et aussi les acteurs de nanoécole que sont les Grenoblois, les Lillois, les Parisiens et nous-mêmes. Il y a une deuxième réunion qui est prévue le 3 février, et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir être opérationnel en 2011, essayer d'avoir un équipement. Alors, on avait au départ pensé à un microscope à force atomique.
Eux, ils avaient pensé
à un microscope à force atomique, oui. Qui est, à notre avis, pas du tout adapté à la situation. Après, on avait pensé aussi à une petite machine de micro-contact printing pour faire de la structuration. Ça a l'air un peu plus envisageable et surtout financièrement, qui permettrait d'avoir plus d'équipement par académie, parce que sinon, on se limiterait à un équipement par académie au prix d'un microscope à force atomique. Voilà. Et donc ensuite, donc là, ce qui est très important, c'est de aussi par académie de se rapprocher de nos rectorats respectifs, parce qu'on s'est rendu compte. Oui, mais ça marche pas. Ça marche ? On s'est rendu compte que sur Toulouse, on avait de très mauvaises relations avec le rectorat, qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils n'étaient pas du tout investis. Et donc voilà, ça fait 2 semaines où on est au basque du recteur et on va avoir une réunion avec lui en janvier pour essayer justement via le recteur de pouvoir vraiment interagir avec l'éducation nationale. Donc voilà ce que je... Ah voilà. Et donc, ben vas-y, fais la...
Je ne sais pas, mais je vais... je crois que ça ne marche pas, mais... Donc, simplement, on sait, donc par rapport à ce que Christelle... Moi, je ne vais pas vous présenter ce qu'on fait à Île-de-France-Sud. En gros, c'est la même idée. L'idée, c'est que les trois pôles font quand même des choses différentes, même si l'optique reste la même. Donc, c'est de tester quand même différentes manières d'intégrer les nanos dans les écoles. Alors, nous, à Orsay, on a 2 actions, une en primaire et une en première, enfin au lycée, première terminale. C'est sûr que ces 2 actions sont totalement différentes, c'est comme au collège. Et l'idée, c'est de montrer que finalement, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour poser des bonnes questions. Au niveau des enfants, c'est assez flagrant. Alors moi, je fais ça depuis des années, pas qu'en nano. Je fais ça cette année en nano parce que c'est mon domaine et c'est justement pour ça que je ne l'ai pas fait pendant des années. Je l'ai fait en énergie, je l'ai fait sur la météo, je l'ai fait en maths, je fais ça avec les écoles depuis des années. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus perturbant mais aussi magnifique que les enfants qui posent des questions. Donc ça prouve bien que les bonnes questions ou l'intérêt ou... c'est pas uniquement lié à la connaissance qu'on peut acquérir. Et c'est vrai que du coup, c'est pas pareil ce qu'on va faire en terminale S, parce que c'est deux, et puis en troisième ou bien dans les écoles primaires. Et je pense, bon, nous, on est d'abord enseignants, c'est notre métier, hein, donc c'est pour ça qu'on s'adresse et qu'on fait ces actions-là vers les écoles, les lycées et les collèges. Mais justement, ce panel nous permet de donner aussi cette ouverture et cette approche différente qu'on a d'aborder la science en règle générale. Et moi, ce que je tenais à dire ici, c'est qu'on parle beaucoup des nanos, mais il y a énormément de domaines scientifiques qui posent les mêmes questions, où il faut être autant critique et il faudrait que les gens s'intéressent de la même façon pour pouvoir voter à bon escient quand c'est des décisions politiques à la fin.
Merci beaucoup. Bon, on continue sans micro en attendant que le technicien vienne réparer. En tout cas, bravo pour toutes ces initiatives. Elles sont remarquables. J'aimerais que Laurent, qui est au travers de l'école de l'ADN, dans un autre domaine, interagit beaucoup avec les scolaires, nous dise s'il a un peu ce même sentiment. Mais avant qu'il intervienne, je voulais quand même vous poser une question qui me paraît fondamentale. Quelle est la position de vos institutions par rapport à vos actions et la position de vos pairs, notamment, parce que bon, moi je suis tout à fait en bout de carrière, donc j'ai toujours dit que je pouvais m'investir dans la culture scientifique sans qu'on vienne m'embêter à propos de ma carrière qui était déjà faite, mais je sais que c'est beaucoup plus dur pour des jeunes.
Moi, je suis très jeune.
Hein, et notamment, donc, que je suis presque persuadé que cette action n'est pas tellement prise en compte. Alors, dans le cadre de vos activités.
Moi, je veux bien répondre. Après, on laissera Christelle, parce
bien
que
sûr,
les jeunes, c'est Christelle.
C'est surtout elle
et
qui
donc,
est concernée.
Mais justement, au niveau de l'institution, je veux bien répondre à la question.
Oui.
Bon, il se trouve que moi, je suis un peu comme vous aujourd'hui. Donc, mais je me suis battue depuis toute petite, parce que d'abord, j'ai fait ce métier pour être enseignante. Et j'ai gravi les échelons, on va dire, bon, aujourd'hui, c'est pas pour, mais je suis professeure, donc quelque part pour me faire entendre et pour pouvoir faire valoriser ces actions-là et montrer qu'en particulier dans l'enseignement supérieur, il y a plusieurs barrières à ça. C'est que toutes ces actions ne sont absolument pas valorisées pour nos carrières, pas reconnues. Et ça peut être du plus, mais surtout pas à la place. Donc, quelque part, quand on a fait ça, pour l'instant, ceux qui l'ont fait, c'était, bah, au lieu de faire partie d'une association, on a pris dans notre métier ce côté-là de bénévolat pour pouvoir ça en plus. Alors, les choses ont quand même évolué. Moi, je fais ça depuis 25 ans, plus de 25 ans. Oui, plus, parce que 30. Et donc, quelque part, j'ai vu, moi, personnellement, en m'ayant investi depuis le début, une vraie évolution dans ce qu'on appelle les comités scientifiques, les conseils, les commissions de spécialistes, là où on passe les échelons, le CNU au niveau national. Ayant fait partie de toutes ces commissions, j'ai quand même vu une vraie progression. Cette progression, c'est quoi pour l'instant ? C'est à dossier égal. Quand on fait ça, c'est un plus à dossier égal. Surtout pas en plus, à la place d'une publi. Donc ça, je crois qu'il faut être honnête vis-à-vis des jeunes. Moi, je sais que j'en implique. Et alors, maintenant, je prends ma casquette institutionnelle parce que je suis, je vous l'ai dit, directrice des formations à la Faculté des sciences d'Orsay. Et une de mes motivations de faire ça, en plus de participer à nos formations, par exemple, depuis 2 ans, les statuts des enseignants-chercheurs ont été modifiés. Bien ou tort, on n'est pas là pour en discuter. Un des points quand même positifs, ça a été qu'on a imposé la reconnaissance de certaines tâches des enseignants-chercheurs. Donc on a tous travaillé dans nos établissements à faire ce qu'on a appelé les référentiels de ces tâches. Et c'est-à-dire qu'à chacune des tâches administratives ou en plus de ce type-là, on associe une décharge en heure. Et donc, comme quoi l'institution petit à petit évolue. Moi, personnellement, je me suis battue. Et à l'université de Paris 11, on a fait passer toutes ces actions où aujourd'hui, on les reconnaît en tant que décharge. C'est déjà un plus.
Bien, non,
et aujourd'hui, on arrive aussi les nouveaux contrats doctorat. Et on se bat avec le rectorat, avec Christophe aujourd'hui. On y a réussi à Orsay, puisque j'ai aujourd'hui une doctorante qui travaille avec moi sur ce sujet, pour lequel c'est compris dans son contrat doctoral. Ça fait partie de sa mission. Donc elle a des heures, comme pour faire de l'enseignement, pour participer à ce genre de projet. Donc c'est pas gagné, mais ça évolue.
Très bien.
Donc moi, pour ma carrière, en fait, ma carrière, elle n'a pas commencé, puisque je suis encore en CDD. Et donc, j'ai fait ça en plus de mes contrats scientifiques. Oui. Pareil, en bénévolat. Et là, maintenant, je suis embauchée depuis le 1er décembre, et là, pour 5 mois, dans Nano École, pour essayer de mettre tout ça en place. Voilà. Donc moi, mon institution, finalement, elle a varié du CNRS à maintenant l'Université de Toulouse. Donc j'ai du mal à répondre en fait à votre question par rapport à ça. Par contre, ce qui est très important, c'est que si on veut arriver à pouvoir multiplier ça dans plusieurs, toutes ces actions dans plusieurs lycées ou collèges, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes qui soient formées, donc soit des enseignants du secondaire que l'on forme pour pouvoir faire cela, mais je pense que ça sera difficile, ou sinon il faut que ce soit les doctorants qui, dans leur cadre de vacations au cours de leur doctorat, puissent faire, faire ces enseignements-là. Il y aura donc de la main-d'œuvre, et qui dit de la main-d'œuvre dit beaucoup plus de classes qui pourront être touchées.
Je ne suis pas sûr que ce soit toujours possible, compte tenu des statuts des doctorants. Mais pour, non, mais pas toujours. Tout dépend de l'origine des financements, etc. Alors, par contre, je suis obligé de vous bousculer, de vous dire de partir, sinon vous allez louper votre train, malheureusement. Par contre, c'est le moment des questions pour le reste de la salle. Je pense notamment... si vous avez une question pour Mme Retailleau, on n'a pas de taxi.
On ne va pas le dire dans le micro, mais il n'y a plus de taxi à Poitiers.
En ce moment, là. En tout cas, je trouve, je parle à celui ou ceux qui étaient dans le comité qui a préparé l'exposition sur les nanotechnologies, qu'une des difficultés qu'on a eues, c'était effectivement comment exposer vers le public, et en particulier vers les plus jeunes, ce qui relève du très très petit. Et je sais, parce que j'interroge régulièrement les animateurs d'exposition qui font venir du public, leur plus grand problème, ça a été une classe de primaire qui est arrivée dans l'expo. Et effectivement, il a fallu s'accrocher. Alors certes, il y a des manips qui sont spectaculaires, mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est très très difficile et qu'il faut faire un effort pédagogique énorme pour s'adapter à un public jeune. Mais que c'est absolument faisable et indispensable. Question. Vous êtes tous persuadés qu'il faut de la formation là-bas. Micro.
Que vous avez eu des contacts avec la main à la pâte.
Alors, je connais bien cette association. Moi, j'en fais pas partie. C'est un peu le même type de choses, façon de mener. Il y a plusieurs associations, les petits débrouillards, la main à la pâte, etc. Et puis d'autres, voilà. Nous, on n'en fait pas partie pour plein de raisons, parce que c'est pas, il y en a pas localement où je suis. Donc ça aussi, au niveau géographique, pas loin, il y en a, mais c'est pas loin, c'est pas exactement. Il faut donc déjà, il y a beaucoup d'écoles, de collèges autour, et c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est du bénévolat, c'est beaucoup de temps. Donc pour l'instant, on a un cercle géographique. Moi, j'agis sur les écoles primaires, des Ulis, etc., qui sont autour. C'est vrai qu'en général, j'ai une méthode depuis 6 ans, je fais ça. C'est-à-dire que j'ai l'école d'Orsay. C'est une école, on va dire, privilégiée au niveau... Donc, je teste la première année avec les enfants de l'école d'Orsay. C'est très intéressant, etc. Et ensuite, une fois que mes manips sont un petit peu au point, je les adapte et on va plutôt faire dans des EB, dans d'autres écoles, les années d'après, pour essayer de diffuser plus largement. Mais je dirais qu'on a déjà quoi...
La question était plus institutionnelle.
Je sais bien.
L'académie qui a tellement soutenu la main à la pâte peut vous aider peut-être.
Voilà. Alors... On est en rapport avec le rectorat et les inspecteurs directement. Et je dirais que comme on n'a pas pu, par ces raisons-là, enfin moi en tout cas à Paris, se mettre à la main à la pâte à ce moment-là, parce qu'on faisait ça de façon locale, à travers ce programme Nanoécole, on est allé directement au niveau du rectorat. Donc les manips, aujourd'hui, on est en contact avec un inspecteur régional et plusieurs inspecteurs généraux, dont le doyen de l'inspection générale, sur lequel, moi je fais partie du groupe d'experts aujourd'hui au ministère pour ça, et sur lequel on va essayer de faire entendre certains points. Et je dirais que, je l'ai dit à table, il ne faudrait peut-être pas le dire, mais on a été invité avec Christophe parce que nous, avec notre casquette finalement universitaire, donc indépendant, certains inspecteurs nous ont dit « Vous pouvez dire des choses que nous, on ne peut pas dire. » Donc on y va pour ça.
C'était pas une question, c'est juste une remarque par rapport à la main à la pâte, parce que je sais que ça existe, enfin moi j'y ai participé, mais en tant qu'élève dans une école d'ingénieurs, donc là, c'était mis en place et tous les ans, il y avait des accords avec des écoles. Mais ce n'était pas du tout au niveau... c'est un niveau beaucoup plus bas, en fait. On essaie de faire construire des choses aux élèves. leur faire comprendre comment ça marche,
c'est ce que je fais,
une éolienne, ce genre de choses. Mais il y a moins la difficulté de s'imaginer. Enfin, c'est un niveau beaucoup moins théorique, en fait.
Je suis pas
mais
sûre.
Bon, dans ce cas-là, ça.
Je suis pas sûre parce que
la manière dont vous l'exprimiez, en tout cas, c'est nous, c'était beaucoup plus facile. On pouvait leur faire.
Enfin, j'ai pas expliqué ce que je faisais à l'école primaire. Et en fait,
non, c'est pas que. Excusez-moi de vous couper la parole. C'est pas qu'à la primaire, ça reste un niveau même début collège. Et c'est des choses qui sont vraiment. C'est vraiment de la mécanique plus que de la physique ou de la biologie.
Ouais, mais c'est ce que je fais. Par exemple, on a fait les ondes avec le téléphone à pot de yaourt. J'explique une onde en mettant une guimauve dans le micro-ondes. Donc, quelque part, on essaye de faire, et à chaque fois qu'ils repartent d'une séance, on leur fait fabriquer des choses, l'énergie avec une éolienne, une bouteille en plastique, les trucs de barbecue, le bouchon, etc., et le papier canson qu'on plie en éolienne. Et ensuite, on prend un chronomètre, on prend des sèches-cheveux, et on fait varier la vitesse du vent, et on leur explique quand même la notion temps, rapidité, etc. On a fait la machine à vapeur avec des bouteilles de lait coupées en deux, des chauffe-plats qu'on mettait à l'intérieur, et on leur a fait fabriquer une petite machine à vapeur en leur expliquant, et on fait beaucoup d'histoire des sciences. Donc en fait, c'est très basé sur l'histoire des sciences, parce que ça explique beaucoup de choses, et puis la manip, et ils fabriquent quelque chose de très simple avec des choses simples, et ça tourne énormément autour des notions de mécanique, de force, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ayant réfléchi depuis plusieurs mois à comment introduire les nanos à l'école primaire, je fais les nanos à travers la couleur, avec des ailes de papillons, et en gros, c'est expliquer pourquoi les papillons bleus morphos d'Amérique du Sud sont bleus, pourquoi les ailes de pan sont irisées, et avec des notions vraiment très très simples que les enfants peuvent expliquer liées à du Lego, des déconstructions mécaniques. Donc c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ça très vite comme ça, mais je pense que suivant qu'on le fait en primaire ou suivant qu'on le fait en première, il faut, je suis complètement d'accord, en primaire, expliquer avec des choses simples, des manips et des notions de physique telles que la mécanique, les forces ou les déformations. Mais je pense que c'est un peu la même technique que ce qui est fait à la main, à la patte.
Oui, après, vous devez partir.
Oui, je vais faire très bref, donc Laurent Filion. Donc, moi, je dirige une association qui est l'école de l'ADN en Poitou-Charentes. Peut-être vous en connaissez, il y en a pas loin de chez vous, à Évry, donc voilà, au Généton. Mais bon, on défend finalement, on a la même approche, on essaye d'expérimenter pour comprendre le développement. Donc, alors, nous, on est plus sur un domaine, hein, donc on va parler d'identification génétique, de diagnostic de maladie, d'OGM, voilà. Mais avec cette approche, voilà, d'aller faire des ateliers pratiques. Donc, et j'avais deux petites remarques un petit peu de. Donc, c'est vrai qu'on arrive à avancer parce qu'il y a des chercheurs qui donnent de leur temps. Donc, on est deux permanents, mais il y a aussi des chercheurs qui donnent de leur temps pour voilà essayer d'aller vers les scolaires. Et je pense que c'est vraiment important de voilà d'avoir un petit peu une autre approche des sciences dans le primaire et dans le secondaire. Donc, c'était un peu ma première réflexion. De toute façon, je prendrai un peu vos coordonnées pour échanger. Puis la deuxième, bon, c'est, je pense aussi que ouais, il y a vraiment besoin. Alors, vous parliez du rectorat. Hein. Pour anecdote, voilà, on a à peu près accueilli 15 000 participants en atelier. On a dû faire à peu près un millier d'ateliers. Et je pense que si tout va bien, on rencontrera peut-être le rectorat l'an prochain. Mais ça fait 5 ans. Voilà. Mais ça n'a pas empêché d'avancer voilà, et d'accueillir et d'organiser un petit millier d'ateliers en attendant de les rencontrer.
Ça fait 5 ans qu'on le fait. Voilà, et là, on commence à peine à les contacter, à arriver à ce qu'ils répondent. Donc, il ne faut pas décourager.
Donc, merci, Madame Retailleau. Je vous laisse partir. Et puis, merci.
Je suis vraiment désolée.
D'être venu chez nous.
Il n'y a plus de questions sur les deux interventions.
On se reparle par mail. Merci.
Non, apparemment plus de questions.
Pour
non, ce que je disais en aparté à Christelle, c'est que Laurent Fillon, qui est intervenu avant, a un doctorat en biologie. La médiatrice scientifique, la deuxième, a un doctorat en biologie. Et la troisième, qu'on vient de recruter à l'école de l'ADN, a un doctorat en biologie. Donc, un doctorat, ça mène aussi à ce type de métier et c'est très souhaitable. En tout cas, si vous pouvez y arriver, ça serait bien. Alors, nous allons.
Elle
doit y être.
Elle doit y être. Merci.
Conférence. Alors, c'est pas laquelle c'est. Les nanos en France, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais sinon, c'est plus le contrat. Vous le reverrez.
Voilà.
Ça,
c'est voilà. Alors donc nous revenons au programme et ce qui devait être la première intervention dans l'après-midi. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Olivier. Et je voudrais juste dire quelques mots que la préparation de cette journée a été assez savoureuse puisque il y a environ un an, nous avons essayé de faire venir ici Alain Obadia, qui est un syndicaliste CGT, qui a été l'auteur d'un rapport sur les nanotechnologies en France auprès du Conseil économique et social national. Et puis finalement, après moult contacts, il n'a pas pu venir. Donc vous voyez, ça s'est fait il y a un an, le premier contact. Et puis Dominique Olivier, on l'a pris au vol il y a une dizaine de jours sur la recommandation de Dorothée Benoît Brouwers de Vivagora, avec qui on est en très bon terme. Et immédiatement, il a dit oui. Alors là, je trouve extraordinaire de voir les deux situations opposées. Et quelquefois, on se dit que ce n'est pas la peine de préparer un an à l'avance les réunions quand on a des gens comme vous qui ont la sympathie de venir immédiatement. Et pourtant, on m'a dit que vous étiez très, très occupé. Comme quoi aussi, il n'y a pas de relation dans les deux sens. Alors donc, Dominique Olivier est secrétaire confédéral de la CFDT en charge du développement durable. Il a un parcours professionnel, évidemment, et en particulier, moi, j'avais noté chez Michelin à Clermont-Ferrand pour commencer. Vous avez été administrateur, ou vous êtes encore administrateur d'un certain nombre d'organismes, et vous avez publié sur les risques professionnels, et donc c'était à ce titre-là, ce volet-là qui nous intéressait particulièrement, puisque on évoque régulièrement des questions, voire des problèmes et des accidents même qui se sont produits, non pas en France, mais à l'étranger, en particulier en Chine, sur des sites de production de nanotubes de carbone, par exemple. Donc, votre présentation nous intéresse particulièrement et je vous remercie encore d'être venu.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Cette intervention un peu improvisée, elle est amusante à plus d'un titre parce que monsieur, votre nom ?
Sénatiempo
a parlé de mon collègue de la CGT. Sachez que sur...
Je n'ai pas voulu opposer CGT.
Non, mais justement, je vais vous dire, sur ces questions de l'innovation, du développement durable en général, puisque ma responsabilité, elle est très large et très généraliste autour des questions de développement durable. On travaille vraiment très bien entre CGT et CFDT. On réalise beaucoup de choses, des actions communes, des positions communes. Voilà. Donc, vous avez vu que sur le dossier retraite, il y avait un certain nombre de convergences, mais ça dépasse largement les questions seulement sociales. Et l'autre amusement, c'est que je supplée à l'absence d'une collègue de France Nature Environnement qui devait parler à ma place. Et il se trouve que la CFDT, dans le prolongement du Grenelle de l'environnement, dans lequel nous sommes fortement impliqués dans la préparation des compromis qui ont conduit aux deux lois que vous connaissez, donc Grenelle 1 et Grenelle 2, eh bien, nous avons bâti il y a un an exactement un partenariat en bonne et due forme, c'est-à-dire c'est un contrat entre la CFDT et France Nature Environnement, chacun pesant quand même la bagatelle de 800 000 adhérents à la CFDT et autant chez France Nature Environnement, qui est la plus grande association environnementale en France et qui fédère 3500 fédérations, disons, locales ou thématiques. Hein, c'est assez compliqué, c'est plus compliqué encore que la CFDT, mais ce sont des gens dynamiques et qui ont, comme nous, le sens d'une approche pragmatique et avec une volonté de transformer des réalités. C'est ce qu'on appelle une posture réformiste, que certains nous reprochent, mais on la maintient. Et donc, du coup, sur l'innovation et sur les nanotechnologies, on a eu l'occasion d'échanger, puisqu'ils ont réalisé de leur côté un cahier d'acteurs, nous aussi, et on a été présents dans un certain nombre de débats territoriaux. Pour ma part, j'ai fait la séance de lancement du débat public en France à Strasbourg, et puis la séance de clôture de ce même débat public à Paris, et notamment avec France Nature Environnement, et on a conclu à des, disons, des pistes assez voisines et qui sont, je crois, dans le droit fil de vos initiatives. C'est l'idée que la société, pour garantir son avenir, ses valeurs, enfin toute sa vie future, la société doit s'impliquer dans le champ des nanos pour en contrôler, en réguler les développements. Voilà le, et ce qu'on a souhaité, à la fois, on peut dire, les syndicats et les associations environnementales, mais je pense que la partie patronale n'était pas loin de rejoindre cette position, c'est que ce qui a fait le succès du Grenelle de l'environnement, c'est la gouvernance à 5, c'est-à-dire l'idée que 5 collèges assez grossiers qui représentent la société civile en France. Donc je vous rappelle les associations environnementales, les syndicats, la partie patronale, les collectivités territoriales et les pouvoirs publics nationaux, ben, ces 5 collèges qui ont chacune des prérogatives et qui représentent des intérêts assez importants chacun, eh bien, continuent d'encadrer le développement des nanotechnologies. Voilà, en quelques mots. Alors je vous rappelle là, mais peut-être pourrais-je passer assez vite si vous avez déjà traité de ces questions. Ce sont les conclusions, on peut dire, récentes, puisqu'elles datent de cet été, du débat public sur les nanotechnologies. Alors, je ne sais pas si vous les avez déjà balayées.
Je crois que vous en avez parlé en introduction, mais allez-y.
Bon, je vais le faire peut-être un peu vite, en m'arrêtant sur ce qui nous préoccupe beaucoup en tant que syndicaliste et à partir du milieu de travail. Mais sachez que, et vous le verrez tout au long de ma présentation, c'est que les syndicats et en particulier la CFDT ne s'arrêtent pas du tout aux problématiques du lieu de travail pour prendre position sur de grands dossiers. Les questions de société nous intéressent autant que les questions spécifiques du travail. Bien sûr que notre première porte d'entrée est celle du lieu de travail, mais on s'intéresse à l'avenir de l'humanité, aux libertés publiques, etc. Alors, un petit mot sur les nanos, puisque c'est un raccourci, et là, je n'ai pas besoin de m'étendre, puisque les enseignants, tout à l'heure, les chercheurs ont apporté ces précisions. Quand on évoque les nanos, ce sont des choses très différentes, telles que donc, les nanosciences, qui sont donc une discipline ou des disciplines en tant que telles, qui peuvent interférer, dialoguer, se combiner avec d'autres sciences. Et donc ça, c'est à soi seul, c'est une question. Bon, notamment celle de la convergence, vous savez, NBIC, donc nano, bio et technologie de l'information et de la communication, qui sont convergences qui peuvent être tout à fait redoutables. Et puis ensuite, des choses plus pratiques, les technologies, donc nanotechnologies, qui sont donc des process, des procédés, des moyens d'obtention d'un certain nombre de résultats, résultats qui ne sont pas toujours, il faut l'avoir en tête, des nanoparticules, mais des nanostructures. Et donc c'est un peu compliqué, on verra pour les définitions. Et enfin, les nanoparticules, donc des produits tout petits et qui sont insérés dans des matrices pour un certain nombre de résultats. Alors, la loi donc Grenelle 1, prévoit dans un article qu'il devait y avoir un débat public sur les nanotechnologies. Alors pourquoi c'est une petite innovation? C'est que, suivant la définition du débat public en France jusqu'au Grenelle, eh bien, le champ des nanos, malgré son caractère massif et on pourrait dire même invasif, ne pouvait pas être concerné par le débat public. Donc le Grenelle a introduit une exception, et même, du coup, à partir de cette exception, il l'a généralisée, c'est-à-dire qu'il a ouvert, et c'est très important sur le plan démocratique, il a ouvert le champ du débat public. Et le premier acte posé, c'est de dire, vu l'importance des nanos, il doit y avoir un débat public. Et il a défini, à partir de la Commission nationale du débat public, ses modalités. Commission, vous savez, qui est indépendante, bon, je ne développe pas. Et ce même article a dit autre chose, et là c'est très important puisque on en attend les développements dans les mois qui viennent. C'est une obligation sous 2 ans. Donc vous voyez que si on part du mois d'août 2009, ça veut dire qu'avant l'été prochain, eh bien, on doit avoir les obligations suivantes. La déclaration à l'administration, donc à une autorité publique, de toute production, utilisation, importation de nano. Les modalités donc, d'information du public, donc les citoyens en général, et puis l'amélioration de l'information due aux salariés et les mesures de protection de leur santé. Donc tout ça est à l'ordre du jour et n'est pas, depuis le débat public, rien n'a avancé sur ces aspects. Donc vous voyez que quand on sait le temps d'élaboration d'un texte réglementaire, nous sommes très préoccupés et vous devez vous-même être préoccupé par ces questions qui vous intéressent directement. Donc les décideurs publics ou les autorités territoriales doivent être, disons, mobilisés, sensibilisés au fait de traduire ces engagements de la loi sur le sujet. Hein, il en va de, y compris, puisque c'est en débat, de l'acceptabilité sociale et sociétale de ces innovations technologiques. On voit bien que le doute s'instaurera si les engagements de prix ne sont pas tenus. Alors, je passe rapidement sur le débat public qui a duré donc 4 mois avec une forte contribution et des dizaines d'écrits. Hein, vous savez qu'il y a un format qu'on appelle le cahier d'acteurs, donc de 4 pages ou alors des contributions. Et vous voyez qu'au total, on en a eu à peu près 75. Une participation alors un peu modeste puisque les organisateurs visaient les 10 000 participants, disons physiques, à des débats et on a atteint seulement 3 000, mais il y a eu des visites du site internet et le constat de la perturbation donc de la moitié des débats en région par une minorité d'activistes qui ne voulaient même pas qu'on débatte du sujet. C'est-à-dire qu'ils sont tellement contre qu'ils estiment qu'il n'y a pas lieu d'en débattre. Mais bon, alors ça c'est un problème démocratique et sachez que la CFDT, quelles que soient les difficultés des sujets, considère qu'on doit toujours en débattre, même si on est farouchement contre. C'est-à-dire que du coup on doit apporter, puisque le principe du débat public c'est d'apporter des éléments d'argumentation et des analyses fondées, eh bien, on doit participer au débat pour montrer que quelque chose est nocif, est nuisible ou qu'on doit l'interdire. On l'a fait, nous, sur des sujets, vous savez, difficiles comme celui de l'amiante, et c'est toujours à l'ordre du jour parce que, mis à part l'Europe, le reste du monde continue à en consommer. Bref, et vous savez que pour le clonage thérapeutique, la société elle-même a dit là où on devait s'arrêter. Pour les cellules souches, le débat est encore, j'allais dire, vivant, n'est pas clos, et c'est normal. Donc voilà, et pour les nanos, la question se posera, on va voir dans quel domaine, mais sans doute qu'on devra dire là où on peut aller, pas trop loin, et là où on doit s'arrêter, parce que sinon, il y a quelques menaces sur l'avenir de l'humanité. Alors, dans les propositions... j'essaie d'aller vite, c'est connaître et mieux faire connaître. Alors là, le premier item eh bien, recouvre l'exposé des collègues précédentes, hein, puisque la question de la culture scientifique a été pointée, c'est-à-dire qu'on a un problème en France pour la bonne tenue de débat, c'est que le citoyen lambda ou le public ou des jeunes eh bien, ne comprennent pas de quoi ils retournent. Alors, il est difficile de débattre, d'une part, et ensuite d'envisager une décision de compromis plus ou moins optimisée si il n'y a pas ce minimum de compréhension qui suppose une culture scientifique de base, de la vulgarisation. Alors, on a parlé des jeunes, se pose le problème des adultes Et nous, en tant que syndicalistes, on se pose la question de la vulgarisation scientifique en direction des adultes, puisque nos adhérents, j'allais dire lambda, sont comme les autres citoyens, ils n'y comprennent pas plus, même si on fait quelques publications de temps en temps, ça ne suffit pas. Et très concrètement, par exemple, pour ma part, parce que moi j'ai à traiter de responsables syndicaux, disons de niveau régional, par exemple les responsables régionaux de la CFDT de Poitou-Charentes ou ceux du national, et pour dialoguer avec François Chérec ou ses adjoints, il faut que ces responsables de haut niveau acceptent de se mettre sur les bancs de l'école, même si c'est une école syndicale. Et c'est pas simple, puisque par définition, ce sont des décideurs et des chefs. Donc, normalement, le chef sait tout. Mais je dis sans ironie, hein, c'est pas méchant du tout. Mais vous voyez bien que même pour nos parlementaires, la question se pose. S'ils ont des choix à faire, quel est, même si certains sont médecins, peut-être qu'ils comprennent un peu mieux, mais ceux qui sont avocats ou je ne sais quoi, je pense ne comprennent rien aux nanos. De même qu'ils ne comprennent pas grand-chose au développement durable, vu un certain nombre de décisions récentes, comme l'éco-taxe ou les empêchements pour l'éolien. Bref, je ne développe pas. Alors, ensuite, la cause est entendue sur la culture scientifique. Nous, on est vraiment pour développer cette vulgarisation. Et concrètement, je vais, par exemple, organiser une exposition, donc celle, je pense, dont les chercheurs ont parlé, l'exposition de la Cité des sciences sur le sujet, je vais l'installer pendant un mois dans les locaux de la CFDT. Donc vous voyez que concrètement, nous, on passe aussi aux travaux pratiques, puisqu'on a un lieu où on a 20 000 mètres carrés de bureaux, où on a des centaines et des milliers de responsables qui passent tous les jours ou toutes les semaines, et donc avec une expo à demeure, on espère les arrêter un peu pour qu'ils fassent quelques petites expériences et qu'ils s'imprègnent d'un minimum de choses. L'inventaire national, vous voyez que ça, alors c'est très ambitieux, de considérer qu'à partir de l'obligation dont j'ai parlé tout à l'heure, de déclaration à l'administration, eh bien, le pays, disons France, soit capable de réaliser un inventaire exhaustif de tous les travaux de recherche, d'études, de production, d'utilisation des nanotechnologies ou nanoparticules. Et pour les syndicalistes que nous sommes, cet inventaire national est vraiment un passage obligé, mais il l'est aussi pour la société, pour qu'elle soit plus en sécurité. On doit ne pas cacher où sont les lieux de recherche ou de production en la matière. Et je dois souligner, pour avoir fait des investigations, que je confirme ce que disaient les chercheurs tout à l'heure, l'Allemagne a une pratique complètement différente en la matière. Et vous pouvez trouver en ligne sur le site du ministère de l'Industrie allemande eh bien, la totalité et la cartographie des travaux des établissements qui font de la recherche, de la production, de la transformation ou de l'utilisation des nanos. Et vous avez même non seulement une cartographie, vous avez des typologies et vous avez jusqu'à la nature des travaux ou des fabrications. Et vraiment, on peut avoir les centres universitaires et de recherche, on peut avoir les petites entreprises qui utilisent les nanos, il y en a 700 et quelques, on peut avoir les grandes entreprises, il y en a 240, je ne sais pas si vous voyez, on a parlé des grands en France, là, mais vous vous rendez compte, en Allemagne, 250 très grandes entreprises qui utilisent des nanos. Autant dire toute l'industrie allemande, bon, etc., etc. Je ne développe pas, mais vous voyez que cette transparence que font les Allemands, il est complètement incompréhensible que la France ne puisse pas faire de même et qu'on ne nous parle pas du secret industriel J'en connais quelque chose pour venir de la R&D. Les secrets ne sont pas dans la localisation d'un centre de recherche, de, par exemple, de Michelin à Clermont-Ferrand. Il est dans des procédés, dans des choses très fines que connaissent les seuls chercheurs et non pas dans l'adresse postale ou la raison sociale d'une société. Ben, oui, mais on nous fait toujours le coup. Ensuite, traçabilité et transparence, ben, c'est... du même ordre, encore que traçabilité en rajoute, hein, puisque transparence c'est plutôt lié à je déclare ce que je fais et j'explique. Mais traçabilité c'est un point de vigilance qui nous intéresse beaucoup, c'est comment des produits ou des technologies passent d'une entreprise à une autre. Parce qu'on a un point de départ, mais ensuite on a des utilisateurs qui peuvent être d'autres entreprises ou bien un travailleur ou bien un consommateur final de produits. Eh bien, quelle est la chaîne qui permet de suivre tout cela? Et vous voyez qu'on on est dans les engagements hein, qui découlent du débat public. Vous voyez un peu tout l'outillage législatif et réglementaire qu'il faudra pour arriver à cela. Ensuite, commission locale d'information, bien, là, on rapproche encore un peu plus le citoyen ou le consommateur ou le travailleur de... ben, des lieux à risque potentiel, hein, donc lieux de recherche ou de production. Et enfin, une question, mais que j'aurais dû mettre avec un point d'interrogation, parce que ça, c'est plus polémique, c'est l'étiquetage des produits, parce qu'on n'est pas certain de savoir à quoi ça sert. Et pour notre part, nous, en tant que syndicat, on n'y est pas favorable. Les consommateurs nous ont un peu, j'allais dire, bassinés avec ça. Mais qu'est-ce qu'on dirait? Quelle serait la mention autre que contient des nanoparticules? Et pourquoi le dirait-on? Puisqu'on ne sait pas s'il y a un risque ou s'il n'y en a pas. Donc, faut-il alerter les gens comme on nous a déjà fait le coup pour les OGM? Bon, tant qu'on n'a pas montré qu'un produit ou qu'un procédé génère des risques, on ne va pas... effrayer oui, la population ou les consommateurs avec des mentions qui ne servent à rien. Et puis, il y aurait tellement d'autres mentions à ajouter que du coup, l'emballage dont on dit qu'il ne sert pas souvent à grand-chose, ben, et, du coup, il faudrait vraiment qu'il soit très volumineux. voilà. Donc, réserve sur les aspects d'étiquetage. Alors, évaluer, amplifier la recherche. Donc là, on retombe sur des problématiques évoquées. Aujourd'hui, seulement 3% des budgets publics sont consacrés aux problématiques des risques. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre considérable. Non, 3%, c'est ce qu'il faudrait atteindre. Et même ça, donc vous voyez que c'est peanuts à côté des donc 97 qui seraient dédiés au développement et à la production, mais aujourd'hui, on n'est sans doute même pas à 1%. Il y a presque rien de fait sur la problématique des risques, et encore une fois, tout type de risque. Hein, on pense au lieu de travail pour les gens les plus proches des nanoprocédés ou nanoparticules, mais à la fin, il y a bien sûr des consommateurs ou des gestionnaires de déchets dont on ne sait ce qu'il adviendra. Alors, ensuite, l'adaptation du règlement européen REACH. Alors, vous devez, j'espère, savoir un petit peu de quoi il retourne. Le règlement européen REACH concerne la mise, pour faire court, la mise sur le marché des substances dangereuses ou des substances chimiques, en tous les cas, avec une innovation majeure et historique, même une révolution qui vient d'ailleurs des approches de développement durable, de type développement durable, qui est celle du ce qu'on appelle du renversement de la charge de la preuve, à savoir que jusqu'à présent, depuis des dizaines d'années, seuls les médicaments supposaient des évaluations préalables ou a priori de risque. Et encore, vous avez vu les failles avec le Mediator et avec d'autres, les failles qu'on a pu observer. Mais en tous les cas, les médicaments, dans le principe, on doit étudier préalablement la toxicité pour l'homme notamment. Mais pour les produits chimiques, ce n'était pas le cas du tout. Je ne sais pas si vous avez idée d'où nous venons, mais en gros, n'importe quel industriel, scientifique, même un bricoleur dans son garage, pouvait faire une mixture, lui donner des propriétés pour essayer de la vendre, et puis la vendre, jusqu'à ce qu'on constate des dégâts humains ou des dégâts sur les écosystèmes, donc des pollutions graves et des conséquences plus ou moins irréversibles. Et donc, le règlement européen REACH, qui est tout récent, qui a mis environ une quinzaine d'années à être élaboré et auquel j'ai contribué depuis même plus de 15 ans, je connais toute la genèse de cette histoire, demande à ce que tout producteur d'une substance chimique développe d'abord les études de toxicologie et d'écotoxicologie de son produit, de son principe actif, et ensuite, il, ayant fait ses études, il déclare ses travaux, il déclare le produit, donc c'est enregistrement, registration en anglais, il fait enregistrer le produit et les études associées, et ensuite, en fonction des conclusions des études, eh bien, on va classer le produit soit comme inoffensif, et il n'y aura pas de règles de protection ou de prévention, soit comme moyennement dangereux, et il y aura donc des protections moyennes, soit très dangereux et des grandes protections, soit très très dangereux et l'utilisation en vase clos, soit tellement dangereux qu'il sera interdit. Donc vous voyez le principe, c'est-à-dire avant même de commercialiser et de diffuser un produit, on doit faire tout le travail d'évaluation préalable. Et là, pourquoi j'insiste un peu, c'est que pour les nanoparticules, en tous les cas, ne parlons pas des nanotechnologies, parce que là, le règlement est inopérant, mais pour les nanoparticules qui peuvent être assimilées à un produit chimique, eh bien, le règlement n'a pas les bonnes dispositions d'application. Parce que les produits chimiques, d'habitude, on les utilise en centaines ou en milliers ou en dizaines ou centaines de milliers de tonnes. Et justement parce que les nanos sont très petits, donc ne pèsent pas lourd, on n'atteint jamais les seuils qui auraient fait l'obligation d'appliquer le règlement REACH. Et donc, ce règlement, donc très novateur et très protecteur, doit être adapté pour les nanoparticules. Et donc, c'est à l'ordre du jour, enfin, en tous les cas, ça a été mis à l'ordre du jour par le syndicalisme européen en direction de la Commission européenne qui prépare les lois et règlements avec le Parlement européen. Et donc, il y a un débat aujourd'hui entre des juristes, des experts pour savoir comment faire. Mais vous voyez que la difficulté, c'est que sur le sujet, on a déjà à peu près 10 ans de retard, hein, puisque ça fait largement plus de 10 années que les nanoproduits sont vulgarisés et les industriels n'ont pas fourni les éléments de toxicologie nécessaires à la société et aux travailleurs pour leur protection. Sachez que dans le débat européen, donc le débat, pas vraiment public, mais quand même le débat sociétal en Europe, le Parlement européen est en désaccord avec la Commission sur l'appréciation de cette question. Et le Parlement européen est plus proche des organisations syndicales, du syndicalisme européen, que de la Commission. Il a même, et c'est quelque chose d'original, puisque vous savez que la majorité du Parlement européen est plutôt de droite, mais que les clivages droite-gauche n'ont pas la même signification, ou en tous les cas la même portée qu'en France, ils ont dégagé dans la totalité du Parlement européen, on va le dire comme ça, c'est pas la peine de dire droite-gauche, ils ont dégagé un point de vue commun critiquant la Commission et disant clairement, puisque ça s'appelle une résolution, donc c'est pas un discours oral, c'est un écrit très lourdes conséquences. Et cette résolution dit que la législation, d'une part, et la réglementation européenne et les normes européennes ne sont pas appropriées pour protéger le citoyen, le consommateur et le travailleur. Donc vous voyez qu'on a quand même une base, on peut dire, politique ou juridique, non négligeable pour demander des améliorations. Alors, la conclusion sur la question de la nanotechnologie, eh bien, c'est quelque chose d'ouvert, qui n'est pas tranché, mais pour lequel, justement, on s'interroge sur le caractère spécifique du risque toxicologique des nanos. Et donc, est-ce qu'il y a une toxicologie différente de celle qu'on connaissait avec les molécules chimiques auparavant? Et du coup, ça interfère, bien sûr, avec l'adaptation du règlement REACH. Les questions de mesure, de métrologie, d'outillage pour identifier les produits, eh bien, ça a été évoqué. Il faut beaucoup de recherche en la matière. Et là encore, tous les instituts, qu'ils soient français de recherche et de prévention des risques ou européens, eh bien, n'ont pas encore assez de moyens pertinents pour l'identification ou la quantification des nanoparticules. Et puis la formation des experts nécessaires, eh bien, ça rejoint l'effort de nos chercheurs là. On a besoin de, et la France particulièrement, parce qu'elle avait accumulé un retard dans le renouvellement de ses équipes de scientifiques de haut niveau, et particulièrement dans le domaine de la toxicologie industrielle, eh bien, il faut que tous les pays, dont la France, renouvellent leur potentiel humain de recherche. Et donc, il faut que de jeunes étudiants... Oui, d'accord. Je vais aller plus vite maintenant. Sur la proposition de renforcer la sécurité des salariés, je pense que là, les commentaires ne sont pas très utiles. On est dans le schéma classique identification, évaluation des risques, mais à condition que ce soit a priori, c'est-à-dire pas après le constat des dégâts. La diffusion de guides de bonne pratique, c'est plus ou moins en cours, mais c'est limité par les connaissances qui ne sont pas suffisantes ou la métrologie qui ne suit pas. En tous les cas, le suivi professionnel, ça, c'est une revendication syndicale, c'est-à-dire que dans le doute, qu'on garde une trace de l'exposition de salariés à des nanoparticules, pour que le jour où on saura que telle ou telle est dangereuse, eh bien, on puisse retrouver les populations de travailleurs exposées pour s'en occuper ou les soigner. La traçabilité, j'en ai parlé, et le principe de précaution, eh bien, c'est évidemment le seul quasiment possible devant autant d'incertitudes. On n'est pas dans la seule prévention si on avait bien identifié le risque d'une nanoparticule. On connaît trop peu de choses et donc on doit être dans la précaution. Et donc la précaution, il faut revenir un petit peu dessus. Pour la CFDT, c'est une posture, disons, de prudence face à un risque mal maîtrisé. Et ça signifie qu'on doit développer une vigilance, une identification des signaux faibles, comme on dit, de risque, pour ensuite être en capacité de se replier dans une situation de protection. Et donc, tout cet exercice compliqué de, à la fois, continuer la recherche et l'innovation, surveiller les risques émergents ou les signaux faibles de ces risques, et puis être capable de revenir en arrière pour se protéger, voilà tout l'enjeu, on peut dire, qui est posé aux scientifiques et aux techniciens qui sont dans ces problématiques aujourd'hui de l'activité des nanos. Et donc, ça suppose aussi une conscience professionnelle particulière, et nous défendons l'idée de la mise en place ou de la dynamisation, en tous les cas, de commissions ou d'instances de discussion éthique où le chercheur qui a un doute peut ou pourrait exprimer ce doute et se dire, eh bien, ce travail ces investigations que j'avais prévu de faire, eh bien, en fait, je vais les abandonner parce que je pense qu'il y a trop de risques ou en tous les cas qu'il y a trop d'inconnus. Et je remets en débat dans la société mes travaux pour savoir si je suis autorisé à continuer ou pas. Et donc, ce qu'ont indiqué les chercheurs, à savoir le mixage à la fois de l'interdisciplinarité des sciences dures, donc la chimie, la physique et la biologie, avec les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire le fait que dans ces formations, ils aient les deux volets immédiatement et pas l'un après l'autre, c'est tout à fait important pour cette matière en particulier. Donc là, j'arrête là. Je pense qu'il vaut mieux laisser une petite place au débat. Le reste, on l'a plus ou moins évoqué. Bon, avec un point, une accroche quand même sur la CNIL, hein, qui, son président Axel Turk a... Alex Turk, excusez-moi. Oui, c'est Axel Kahn et Alex Turk. A alerté dans la conclusion du débat public en disant que d'abord les moyens de cette CNIL étaient quasi inopérants vu la masse des dossiers qu'il y aurait à traiter. Et il a alerté sur une deuxième chose qui doit nous préoccuper, c'est que la France, sans doute pour des raisons historiques, cultive ces questions éthiques et qu'il l'a dit avec force. Et moi, je l'ai constaté, je peux vous le dire dans le syndicalisme européen, c'est que le reste de l'Europe s'en fout complètement de l'éthique. Et en gros, c'est innovation, innovation. Continuons à engranger de l'avance sur les autres pays du monde ou les autres régions du monde pour gagner la compétition économique. Mais l'éthique n'est pas à l'ordre du jour. Et je peux vous dire que dans la Commission européenne, c'est affligeant. C'est complètement... Donc la situation est quand même sérieuse. Autre illustration, il n'y a pas d'autre pays en Europe où soit tenue une opération de débat public comme celui de la France. Et quand j'ai exposé là tout ce que je vous ai montré, bon, le reste, vous ne le verrez pas, mais peu importe, mes collègues syndicalistes européens ont été sidérés, quoi. Et d'ailleurs, dans les revendications syndicales européennes, ils s'appuient sur la démarche française, donc son débat public et même les premières lois Grenelle, pour dire au minimum, l'Europe doit faire la même chose. Et ce n'est pas gagné. Voilà. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il va y avoir des questions. Le micro arrive à vous.
Oui, merci pour votre présentation très, très claire et passionnante. J'ai juste une question qui m'interpelle beaucoup. Et que il me semble que vous ne l'avez pas abordée, au moins aussi directement que ou je l'ai peut-être mal perçu. C'est le contrôle que j'appelle populaire, au sens large du terme, soit des travailleurs au sein de l'entreprise qui fabriquent ça, donc tout le rôle du comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail, d'une part, et d'autre part, des commissions locales d'information et de surveillance vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des entreprises je crois que ce sont deux éléments, me semble-t-il, qui participent d'une part au débat citoyen et je dirais au respect des libertés fondamentales pour qu'il n'y ait pas de dérive, il n'y ait pas de dérive, justement, par rapport à ça.
Je réponds tout de suite. Alors, il y a une raison pour laquelle je n'ai pas insisté. Donc, c'est une forme d'autocensure dans ma tête. C'est que ça me paraît évident pourquoi on n'en est pas là. C'est que, parce que, bien sûr, ça fait partie de nos revendications, vous imaginez bien. C'est que les CHSCT, aujourd'hui, première chose, n'ont pas l'information, puisque la cartographie ou l'inventaire général ou exhaustif dont j'ai parlé n'existe pas, la traçabilité qui permettrait de savoir que, par exemple, dans tel pneu de chez Michelin, il y a des nanos, et puis après, il y a des gens qui manipulent le pneu, y compris quand il est usé, et puis il y en a même qui finissent par le détruire, tout ça n'existe pas. Donc, bien sûr qu'on aura du travail à faire, et on veut le faire, ce travail, mais on n'a pas l'information ni la traçabilité, et ensuite on n'a pas les études, les fameuses études préalables de risque. Donc voilà pourquoi, d'ailleurs, on est en pour tout dire, on est en complète illégalité. C'est-à-dire que n'importe quel, en gros, si on voulait utiliser, comment dire, un marteau-pilon pour écraser une mouche, mais encore que l'image n'est peut-être pas bonne, même pas bonne du tout, parce que peut-être qu'on, je vous le dis, peut-être qu'on le fera. En tous les cas, moi qui ai été blessé par la catastrophe sanitaire de l'amiante, je peux vous dire que je ne laisserai pas dériver les nanos de la même manière que l'amiante. C'est-à-dire que dans 6 mois, et vous pouvez prendre note, si la loi dont j'ai parlé n'est pas instrumentée des décrets utiles, ben on verra quels moyens, y compris juridiques, il faut prendre, et peut-être qu'on arrêtera des productions de chez L'Oréal, de chez Saint-Gobain, parce qu'on sait où sont les produits, nous. On a quand même des sentinelles quelque part. Voilà. Donc, ça, c'est la première question. Ensuite, les CLIS, les commissions locales d'information, elles ont à peu près le même problème, sauf qu'elles ont encore moins de prérogatives, j'allais dire légales. C'est presque, on est dans... on vous informe, mais c'est parce qu'on est gentil, et c'est pour vous rassurer. Mais comme elles ont encore moins de prérogatives et que les mêmes inventaires, les mêmes études préalables de toxicité n'existent pas, de toute façon, elles pourraient se réunir, elles seraient inopérantes. Mais par contre, vous avez raison de mettre le doigt. Tout ça devrait fonctionner pour encadrer et réguler les nanoproduits et compagnie, quoi. Oui, tout à fait.
Oui, alors je voudrais vous rassurer sur un point. Je crois que les décrets d'application sont en cours d'élaboration.
Oh non.
Néanmoins, j'en ai vu des premières formules.
Je devrais être au courant. Je fais partie du comité national du développement durable et j'en sors là à l'instant même. J'étais avec Madame Pallardo et compagnie. Et on doit suivre tous les décrets d'application des Grenelles. Non seulement les suivre, mais les valider. Et mais il y a peut-être un pré-projet.
Oui, il y a des pré-projets.
Bah, tant
alors,
mieux.
Ceci étant, c'est rassurant dans une proportion relativement étroite, j'ai envie de dire, parce que même si les décrets d'application sont adoptés, ce qui est probable à terme, quel terme, c'est une autre question, mais c'est probable, étant donné que ces textes, les lois Grenelle 1 et 2, s'adressent non pas, comme on le demande au niveau européen en ce moment, aux nanomatériaux, aux nanoparticules ou plus largement aux nanotechnologies, mais à une espèce totalement exogène qui s'appelle substance à l'état nanoparticulaire ou matériaux destinés à rejeter de telles substances, typiquement les pneus de chez Michelin y rentreront jamais dedans. C'est-à-dire que l'obligation de déclaration ne va pas s'appliquer à ces substances-là. La réponse qu'offrent les lois Grenelle, pour l'instant, elle n'est quand même pas totalement satisfaisante, indépendamment même qu'en l'état actuel des choses, du fait qu'en l'état actuel des choses, aucune sanction n'est prévue par les textes, donc on est toujours dans un mécanisme de déclaration volontaire. Et que les objectifs de traçabilité qui sont poursuivis par la loi, ils ne visent pas la traçabilité des études toxicologiques et écotoxicologiques qui porteront sur ces substances, mais simplement leur fabrication et leur utilisation. Donc, c'était bien d'arriver à tout ça à l'issue du Grenelle. Déjà, je pense que vous avez dû le noter si vous avez participé activement aux travaux du Grenelle, entre ce qui est sorti des travaux du groupe 3, protection de l'environnement, sur la question des nanomatériaux, et puis ce qui a été transposé ensuite dans le projet de loi, et puis discuté, il y a quand même un monde, mais en outre, moi je ne suis pas certaine que même une fois cette échéance passée, on ait obtenu entièrement satisfaction en matière de traçabilité des nanoparticules et des nanomatériaux.
Ce qu'on peut dire, vous avez raison pour une grande partie. Alors j'espère effectivement que des pré-projets sont en rédaction et surtout qu'on nous les soumette pour validation ou enrichissement. Il y a quelque chose qui peut se conjuguer avec les imperfections de la loi française une initiative récente de la Commission, mais qui demande à être confirmée, qui est celle de la définition de ce qu'est une nanoparticule ou nanomatériaux. Et dans un document tout récent, donc il y a quelques semaines, à peine, oui, quelques semaines, il y a un début de définition qui, au premier abord, nous convient. Alors, c'est vous dire, s'il convient à la Confédération européenne des syndicats, c'est... Et justement, la question, par exemple, des agglomérats, des toutes choses qui permettent d'éviter la définition de nanoparticules, justement, ça, on pourrait le dépasser. Alors, je vous dis juste en quelques mots, c'est une définition qui prévoit que seraient considérés comme nanomatériaux ou traités comme une nanoparticule un matériau dont la distribution de masse, dont 1% de la distribution de masse, alors c'est, bon, désolé pour l'expression, mais serait inférieur à 100 nanomètres. Et du coup, tout un tas d'agrégats, parce que justement il y a des traces nanoparticules initiales, eh bien seraient des nanomatériaux ou seraient dans le paquet sous la réglementation. Et puis il y a encore d'autres choses qui sont les définitions de surface spécifique, c'est-à-dire que ça prend en compte les volumes. Hein, bon, et il y a des chiffres qui circulent, enfin, non seulement qui circulent, on les a eus, puisqu'on a eu la chance d'avoir de tenir un séminaire sur les nanos. Matériaux le jour même où ce texte est sorti à Bruxelles, et on l'a eu tout de suite. Voilà, donc la surface spécifique est encore une approche complémentaire, savoir si c'est donc quelque chose de plan, quelque chose de rond, quelque chose de pyramidal, et puis de toute façon la surface spécifique ramenée à une masse, ça donne toujours une idée de la complexité de la nanostructure. Donc voilà. Donc il y a des petites bribes. Donc vous voyez, entre, encore une fois, je me résume, la loi française imparfaite parce que, comme vous dites, définition inexacte ou impropre, et l'Europe qui dirait oui, mais un nanomatériau ou une nanoparticule, ça a telle caractéristique, quand on mixe les deux, on pourra avoir un résultat intéressant. Bon. Alors le Centre européen de normalisation, vous savez, doit aussi travailler sur ces questions, et comme une grande partie vient de la normalisation, parce que pour d'autres raisons, notamment la métrologie ou la propriété intellectuelle encore, on doit définir des choses, bon, on a aussi des espoirs de ce côté-là. Et le syndicalisme européen travaille sur la normalisation européenne. Paradoxalement, on travaille mieux en Europe sur la normalisation qu'en France. Alors que l'histoire de la normalisation est plus ancienne, évidemment, en France. Mais par exemple, il y a des groupes Miroir d'Afnor qui travaillent dans son coin. Apparemment, ils n'ont pas encore de syndicalistes. Alors, on va peut-être leur en trouver. Voilà.
Dernière question.
Oui, j'ai été un petit peu surpris par votre note très négative à la fin sur l'Europe. D'abord, les questions éthiques au niveau européen sont quand même bien prises en compte dans les programmes de recherche, parce qu'il y a tout un volet de projet ELSA, Ethical, Legal and Societal Aspects. Ensuite, parce qu'il y a un code de conduite qui a essayé quand même d'être promu par la Commission européenne, qui concerne les industriels aussi, mais effectivement, il est volontaire. Et ensuite, parce que pour les autres pays européens, il y a quand même eu énormément d'avancées, même si ce n'est pas sous la forme du débat national qu'on a, qui est spécifique à la France, il y a eu énormément de débats publics, une conférence de citoyens en Grande-Bretagne, bien avant qu'on en fasse, nous, en France. Les Néerlandais sont quand même avec très fort sur le technology assessment, bien avant les nanos. Et donc, il y a quand même des actions dans les autres pays européens qui sont... Alors, du point de vue industriel, je ne suis pas sûr, mais malgré tout, les Anglais avaient commencé aussi avant nous à demander des questionnaires dans les industries pour qu'ils puissent répertorier les produits dont ils soupçonnaient que ça pouvait être... et c'était BRA qui avait fait ça, c'était une administration anglaise, britannique. Et puis, est-ce que la CEFIC, la Confédération européenne des industries chimiques, n'avait pas une position quand même assez favorable sur... Le contrôle, le suivi, la traçabilité, il me semblait qu'ils s'étaient concernés d'une façon plutôt positive que négative.
Alors, sur les précisions que vous apportez, je suis à peu près d'accord, mais avec les réserves suivantes. Sur la R&D, si vous voulez, c'est le problème de la terrine de cheval et enfin le pâté de cheval et d'alouette, quoi. Voilà. C'est-à-dire, je n'ignore pas qu'il y a des programmes autour des questions éthiques. Dans l'ONU même, dans l'UNESCO en particulier, il y a une commission éthique des sciences et des technologies. Le problème, c'est que ça ne pèse rien du tout dans les rapports de force. Ça ne pèse pas du tout et ça n'influence pas les choix. Je vais vous dire, puisque nous, on auditionne les commissaires européens ou les directions générales concernées, donc qui sont diverses. Hein. Alors, vous voyez que sur un dossier comme ça, le nombre de directions générales qui peut ou qui devrait s'en occuper, entre le travail entreprise, marché intérieur, environnement, etc., si vous voulez, le refrain qui nous est proposé, c'est innovation, innovation. Et donc, comme la stratégie de Lisbonne, c'est le développement de la connaissance et de l'innovation, on a un champ d'excellence, j'allais dire historique et ancien, parce que les Français, les Allemands et les Britanniques sont de grands chimistes, physiciens, biologistes, etc. Et moi, j'ai entendu par exemple, le président de l'Union des industries chimiques en France, dire clairement, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et donc, en gros, on va tailler des croupières au reste du monde parce que nous sommes excellents dans les sciences dures, que dans les nanos, il y a un concentré de sciences dures. Et donc, on y va à fond et on regardera après les dégâts. Ah non, je vous le dis très clairement, c'est ce qui se produit et c'est le discours très clair de la Commission. Et la preuve de ce que je dis, c'est que le Parlement européen, vous voyez la diversité politique, je ne vous la refais pas, qu'il y a dans ce Parlement européen, eh bien, a voté une résolution qui critique la Commission sur le cadre législatif et normatif. Ensuite, sur les engagements volontaires, nous savons qu'ils existent effectivement, mais pour nous, on nous a déjà fait le coup avant REACH pour les substances chimiques, où la profession de l'industrie chimique européenne, qui est la première du monde, avait dit mais on va faire des engagements volontaires et il n'y aura pas de problème. Pendant un temps, ils ont été écoutés. Ils avançaient en gros au pas un pas très long. Voilà, d'escargot. Et au bout d'un moment, là, du coup, c'est la Commission qui s'est réveillée et le Parlement. On dit, bon, ça suffit. Même des directives, je peux vous le dire, puisque je vous dis, j'ai connu tout l'historique de REACH et même avant qu'on en parle, parce que j'étais dans ce milieu de la chimie en Europe. Eh bien, des directives de 1960, en 90, n'étaient pas appliquées. Alors, on ne peut pas nous amuser quand on sait qu'entre-temps, l'amiante était passée par là, et les autres POP, hein, les polluants organiques persistants dont on continue à souffrir. Donc voilà, donc les engagements volontaires, nous, on n'acceptera pas ça du tout. Et enfin, le CEFIC, alors pour partie, oui, dans ce que vous dites, y compris le MEDEF en France s'est exprimé assez clairement, et je crois qu'au plan européen, ils sont en phase. Ils ont soutenu l'idée qu'on adapte REACH, ce qui est la bonne solution. Et nous, ça nous va. Donc, allons-y le plus rapidement possible, justement, pour sécuriser tout le monde, y compris, puisque nous ne sommes pas des ennemis de l'économie, y compris pour sécuriser l'activité des entreprises. Parce que sinon, elles sont en train de prendre des risques inconsidérés, notamment sur les aspects assurantiels. Vous savez que les grandes compagnies, jusqu'à aujourd'hui, n'accepteront pas d'assurer l'aventure nanotechnologique. Et puis, il faut avoir une idée, mais je vous invite à regarder les efforts de recherche des différents pays en Europe. C'est simple, il y a deux pays qui, font le forcing. Hein. Alors, le premier, c'est l'Allemagne, mais la France est juste derrière l'Allemagne. En montant, c'est phénoménal, hein, les montants de recherche. Même pour la France, on a entre 20% et un tiers de tout l'effort de recherche. Alors, c'est plutôt la recherche publique qu'on peut bien quantifier, puisqu'il y a des programmes, etc., qui est consacré aux nanos. Et quand on sait que dans le privé, c'est sans doute encore plus massif, puisque on peut dire l'innovation spontanée par la recherche de l'avantage concurrentiel joue beaucoup. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé de L'Oréal, de Saint-Gobain, et je ne leur reproche pas ce qu'ils font. Mais bref, la France est vraiment en pointe, et donc ces deux grands pays, il faut qu'ils entraînent l'Europe sur la voie de cette normalisation nécessaire. Et puis, observez quand même que la Chine, qui n'est pas dépourvue de centres de recherche et de scientifiques du meilleur niveau, a des programmes faramineux qui sont comparables à ceux des États-Unis. Hein. Et aux États-Unis, ce n'est pas la recherche publique qui tire majoritairement les travaux et l'innovation, et c'est massivement le privé. Alors le problème, c'est que dans les comparaisons de ces chiffres, on ne sait pas si en France, c'est parce que les industriels sont discrets, comme l'ont dit les chercheurs là tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas trop qu'on dise que dans les cosmétiques, on met des nanos, et puis dans d'autres produits aussi, comme le verre ou des matériaux de renforcement. Bon, voilà.
Monsieur Olivier, je vais vous interrompre parce que je crois que vous pourriez parler encore pendant très longtemps, mais vous aussi, vous allez louper votre train si vous ne partez pas. Donc je vous mets dehors, je suis désolé de prendre cette attitude.
Bon, je voulais vous dire qu'on se reverra parce que pour nous, c'est un dossier majeur, vraiment majeur, parce qu'il est emblématique de l'innovation et du développement durable. Il est emblématique des problèmes de débat public et des compromis à trouver entre la société et donc l'innovation. Et nous, on en fait, enfin, puisque je suis responsable de ça, j'en fais un cas d'école. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai fait l'effort de venir. C'est qu'on continuera à travailler, et j'espère dans toutes les régions. Et puis, sachez que, mais vous avez vos correspondants européens, on continue aussi. Et puis, avec Vivagora, on va activer des débats. Et à l'occasion de notre exposition, là, pendant un mois à Paris, on fera des débats, des événements à différents moments de l'expo pour qu'il y ait un surcroît d'intérêt pour nos ouailles. Parce que il faut
justement, à propos de culture donc, scientifique et de vos ouailles, je parle sous l'égide de notre directeur scientifique. On est prêt à organiser des séminaires pour les membres de la CFDT, ouverts à tous aussi, sur des questions de sciences et sociétés, monsieur. C'est le rôle de notre centre. Absolument.
Et nous rencontrons, nous allons discuter avec Vivagora pour des actions communes à partir de janvier.
Oui.
Voilà. D'accord. Merci. Bon, nous avons. Je vous propose une courte pause de quelques minutes. Je vous demande de ne pas vous disperser, de ne pas partir trop loin, parce que nous allons terminer en beauté, j'espère. Donc, rendez-vous dans 10 minutes maximum. Et s'il vous plaît, revenez.